Vous écoutez Radio FMR, mon micro sent le tabac, c'est dégueulasse. Nous sommes le samedi 22 septembre 2012, nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Janot Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. C'est vraiment dégueu ce stoner. Mais dans l'immédiat, voici votre telenovela que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Un indice là.
Je vais dire que c'est un réalisateur britannique.
Ah, c'est pas Willis.
C'est Ridley Scott.
C'est Bruce Willis dans.
C'est pas l'armée des douze singes.
C'est gagné.
Ah oui, bien joué.
Et oui.
Et si on est sur les bons films, par contre.
Alors.
Ramène-moi.
Les Chuck Norris, c'était pas trop, mais là.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Oui, forcément, si on parle des bons films, j'ai l'impression qu'on s'en souvient un peu moins bien que des films des méga bourrins. Je sais pas.
Eh ben, les bons films, ça dépend. Si tu...
J'ai pas la liste complète des invités de la semaine dernière, d'ailleurs.
C'est vrai ?
Eh ouais.
Ah bon ? Bon.
Tout cela pour dire que nous sommes dans l'émission numéro 323 du Supplément Week-end sur Radio FMR et nous sommes aujourd'hui le samedi 22 septembre 2012. Nous avions juste oublié qu'il y a 11 ans, AZF nous pétait à la gueule, tuant 31 personnes. Preuve qu'on a quand même tourné la page. Mais pour les complotistes, on entend les thèses les plus fumeuses. Je rappelle que dans leur idée, si un musulman porte 3 slips, c'est qu'il va s'envoyer en l'air et tout ça. Que en fait, il y a des bombes fantômes qui peuvent exploser à tout moment et tout le reste. Bref. Tout cela pour ces thèses qui, je le rappelle, sont particulièrement fumeuses. Et c'est là qu'on se dit, non, la fiction, faut laisser ça aux pros, ça restera quand même beaucoup plus crédible. Et qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, puisqu'on a tourné la page? Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire quand même à Toulouse. Déjà, on va commencer par l'agenda, avec donc jusqu'au 26 septembre, le Cartoon Festival, quoique il a déjà été, enfin le plus gros quand même, c'est déjà passé. On a déjà eu une interview d'ailleurs qui était plutôt bien.
On t'entend pas.
Ah, tu m'entends pas? Mais si, je peux te dire que je passe à l'antenne là.
Ah bon?
Bon. Tout cela donc pour dire que... non mais t'as ton planning du sport. Ça va. Non, mais tout est ok, arrêtez. Tout cela pour dire donc que cet après-midi, Devik sera en dédicace à la librairie Les Petits Ruisseaux à 16h, c'est au 11 rue Villeneuve. Il est le dessinateur du Croiseur Fantôme qui est sorti chez Casterman. Cet après-midi à 18h, il y aura le défilé du président Salengro, puisque je rappelle que la radio est partenaire du premier Fifi Gros, le festival international du film grolandais à Toulouse. Donc le défilé du président Salengro, ce sera, ça commencera à Place Esquirol, sera commenté en live par Michael Kull en tant qu'envoyé spécial, et ça se terminera Place Saint-Cernin à 19h avec le concert des producteurs de porc, qui est le groupe du président Salengro, qui hier j'étais à la soirée au Mixar Miris, il avait un sacré coup dans le nez, c'était quelque chose de pas triste. Du sport, paraît que hier le 17-19 avec
il est en train de s'installer, en train de...
Non mais attendez quoi, on a une séance générique pour que tout le monde soit à l'heure. Franchement, vous exagérez, Dus. Ça s'est passé comment hier à la Cinémathèque?
C'était comme d'habitude, comme pratiquement tous les soirs depuis lundi que Radio FMR diffuse en direct de la cour de la Cinémathèque. On peut dire que les invités, surtout grolandais, apprécient beaucoup la bière et les boissons alcoolisées. Voilà, on n'en dira pas plus.
Oui, vu l'heure.
À consommer avec modération.
Très bien.
Non, c'est justement, c'est l'expression qui n'est pas de mise cette semaine à propos de Groland.
Bon, on va avoir des emmerdes si vous continuez
Banzai.
Comme ça. Bref, Banzai, tout à fait. Demain à 18h, cérémonie de clôture avec Bertrand Blier, président du jury, et le président Salengro, qui sera à l'Utopia Tournefeuille.
Alors justement, quoi, dans les émissions du 5 à 7 et tout, c'était quand même, on va dire, le gimmick et tout. Oui, on va voir Bertrand Blier. Et
on l'a pas vu.
Bon, bah tant pis. C'est quand même le président du jury. Il doit être super sollicité, à mon avis.
Pas mal. Tout cela pour dire que le président Salengro donc fera son bain de foule tout à l'heure à 18h, place Esquirol. Allez-y, parce que quand même c'est un président qui a été nouvellement réélu par lui-même triomphalement, preuve de son immense popularité. Le 7 octobre, ce sera le festival du livre de Gaillac. Le thème sera en quête de. Il y aura notamment, si je me trompe, Nico Henrichon, Maliki, Christophe Beck, et d'autres dessinateurs, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a de la littérature jeunesse, la littérature classique, tout cela, bien évidemment, vous aurez tous les éléments dans les impromptus, dans le créneau 12-13 sur Radio FMR, et peut-être aussi dans les parties 17-19, du 26 au 28 octobre. C'est à Saint-Malo, le festival BD Quai des Bulles aura des expos de Sean Phillips, que je suppose que Thomas connaît quand même, hein, pour ce qu'il a fait du sport aussi.
Pas du tout.
C'est quand même un auteur qui oscille entre la BD franco-belge et le comics. D'ailleurs, c'est le thème de l'expo, puisqu'il a travaillé notamment avec Ed Brubaker sur Criminal, Incognito, Fatal.
Oui, Incognito, c'est ça.
Avec Fabien Velman, il a participé à la collection 7 psychopathes chez Delcourt de tête. Il a fait Void Zero One et plein d'autres choses. Il y a aussi donc Andreas avec une expo autour de ces BD, notamment Rourke, Capricorne et tout ceci. Un programme extrêmement costaud, puisque je rappelle que quand même le festival de Saint-Malo est considéré comme le deuxième plus important festival de bande dessinée en Europe, après Angoulême, et bien loin devant Colomiers. À côté de cela, du 26.
Oui, il y a une expo aussi des univers de Stéphane Vull.
Ah oui, non, mais il y a une douzaine d'expos, c'est quand même assez important, assez gros, donc on en reparlera peut-être prochainement. Du 13 au 17 novembre, le 14e festival Extrême Cinéma aura lieu à la Cinémathèque, et je crois qu'on sera en direct sur place. Le terme sera les zoofilms. Attention, zoofilms.
Zoophile, d'accord.
Voilà, pas les zoophiles. Et le 1er et le 2 décembre aura lieu le Toulouse Game Show, parc des expositions avec, je crois qu'on va parler d'ailleurs de la maison d'édition en question, puisqu'il y aura Tot dans Kama,
Il y aura Christopher Judge qui joue Tilk dans Stargate. Il y aura également Yoshitaka Amano, le character designer des Final Fantasy, les groupes habituels, Love in Tambourine, il y aura Bernard Minet, les doubleurs habituels du Club Dorothée qui seront là, qui étaient déjà là pour l'édition Wanami, et d'autres invités qui n'ont pas encore été officiellement dévoilé.
Je suis quand même scié parce que Thomas fait ça de tête, sans notes.
Je te rappelle, je suis en train de préparer le trailer vidéo du Toulouse Game Show, donc je les vois passer tous les jours. En fait, les
voilà, et ce sera tout pour la partie agenda.
Savez-vous qu'on peut revoir Ernie Hudson en France lors d'une convention très prochainement? Ce sera lors de la convention à Paris, qui a lieu, je crois, au milieu d'octobre, ou fin septembre, là, qui va avoir lieu.
Paris Manga, non, c'est
Paris Manga. Non, si, c'est septembre. Quoi,
si, donc, Paris Manga, il y a une branche. Il y a une branche convention. Science-fiction et comics. Ouais.
Science-fiction, comics, avec Ernie Hudson, Corinne Nemec, donc des gens qu'on a déjà vus. Mais je pense que le plus intéressant, c'est quand même la venue de Paul Dodson, qui est un des grands dessinateurs de BD en ce moment, de comics en ce moment, quoi.
On est tout à fait d'accord là-dessus. Zo, le magazine BD numéro 42, 42 de septembre 2012. C'est un mensuel qui est disponible gratuitement dans certains magasins, dont les, ben on peut le dire maintenant qu'il n'y en a plus sur Toulouse, les Virgin, et mais aussi d'autres magasins,
alors au cas où on nous écoute, si on, au cas où on nous écoute sur un podcast, on va dire oui, vous pouvez aussi
ou en stream à l'extérieur, hein.
Oui, ou en stream à l'extérieur. Il faut citer d'autres marques, alors Fnac,
et ben Cultura, voilà. Fnac et je ne sais, bah tiens, BD Fugue, voilà, enfin à mon avis ils ont pas, ils auront pas le Zoomag, quoique
HMV,
on ne sait jamais,
Forbidden Planet,
ah non, avec, c'est avec en une Alix Senator, à ne pas confondre avec l'Opel Senator bien sûr. Alix Senator, c'est la reprise en fait du personnage créé par Jacques Martin, mais scénarisé par Valérie Mangin, avec un
Mangin,
avec un dessin extrêmement réaliste, et où dessiné par Thierry Desmarais, c'est toujours chez Casterman, et où Alix est devenu sénateur, ça veut dire qu'il est devenu général, hein, entre temps, pour ceux qui se souviennent un petit peu de la politique romaine. Et il a un fils qui est un petit peu turbulent, je veux dire, qui est aussi aventureux que lui quand il avait l'âge de ses aventures. Et Alix va repartir en quête tout simplement parce que Enak a disparu. Donc ça, c'est un dossier là-dessus.
Enak, c'est son fils ?
Mais non.
Je sais pas.
C'est le prince égyptien avec qui il a partagé ses aventures.
Ah, c'est son amant alors.
Ouais, alors forcément, si on va sur les terrains glissants, je rappelle que j'ai une interview de Jacques Martin où il explique que à l'époque on entrait à l'armée à 12 ans et que les mœurs étaient très différentes. Alors là, faut se méfier quand même, hein,
alors
si
moi,
on va là-dedans.
Moi je suis désolé,
on va avoir des emmerdes.
J'ai jamais lu un seul album d'Alix de ma vie, et moi, pour moi, tout ce que j'avais compris, c'était qu'Alix était une BD gay. Mais je suis désolé si je tombe à côté, hein.
Mais
un petit peu, oui.
Non, on pourrait développer le sujet, mais il nous faudrait plusieurs heures en fait pour développer le sujet cette pratique en usage très courant dans les démocraties passées.
Moi, je vois déjà la phrase d'accroche pour buzzer sur cette émission. Alix, est-elle une BD gay ou pas?
Merci. Zep, un dossier en fait sur la sortie de son nouvel album, sur le 13e Titeuf qui s'appelle À la folie. Seulement 13e, et pourtant ça fait 20 ans que cette BD existe. Et plusieurs autres dossiers là-dessus, notamment la trilogie de la Cité de l'Arche, et plein d'autres choses. Et dans Zoo, sur lequel collaborent pas mal de copains
que l'on croise
dans Actua BD.
Oui.
Le premier magazine culturel sur la BD, Les Arts Visuels, numéro 42, mensuel. Gratuit, là où vous pouvez le trouver.
Je l'ai déjà. Alors moi, c'est vrai que au début,
ça veut dire que tu l'as reçu toi aussi, ou
non? Je
ne
reçois pas. Je l'ai trouvé.
Tu l'as trouvé. Donc ça veut dire qu'il est déjà distribué.
Je l'ai trouvé. Je sais plus où d'ailleurs. À l'un des magasins que nous avons cité tout à l'heure. Mais sinon, signe qui ne trompe pas, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai, moi je connaissais pas Zoo. J'ai découvert ça il y a pas longtemps en fait. Et moi, en tant que magazine gratuit, je pensais, excusez-moi pour les autres magazines gratuits, que c'était juste bon magazine qui survolait. Et en fait, alors déjà, premièrement, quand tu le lis, c'est que c'est très agréable à lire parce qu'il te fait un panorama succinct mais complet. C'est-à-dire, ça brasse plein de genres.
C'est pas du copier-coller de communiqué de presse. Il y a vraiment un travail éditorial là-dessus, un historique.
Et tu vois qu'il y a des choix des journalistes sur les albums qui chroniquent. Il y a de la bonne sélection. Et puis en plus, c'est bien parce que si tu ne peux pas te permettre de suivre avec assiduité toutes les sorties bande dessinée qui sortent et que tu es malgré tout intéressé par cette industrie-là, c'est bien parce que ça te permet de rester au courant et aussi de te faire un pré-choix si tu es amateur de BD et que tu sais pas trop et que tu es un peu multivers. Ça te permet de, autant manga, comics, bande dessinée d'auteur, bande dessinée mainstream, ça brasse un peu tous les genres. C'est ça que j'apprécie. Et deux derniers signes qui ne trompent pas, c'est que à la maison il est lu autant par madame que par moi-même, donc signe que ça s'adresse à beaucoup de gens différents.
Zoo, plus d'infos sur zoolemag.com d'ailleurs. Thomas, je crois que tu vas y aller sur les chroniques BD. Par quoi vas-tu commencer?
Je réfléchis, attends. Alors post-apo, alors on va commencer par le léger. On va commencer par Blue Estate.
Et c'est parti.
Alors Blue Estate, je vous avais parlé des deux premiers tomes qui étaient sortis à chaque fois qu'ils étaient sortis. Donc C'est une série en 4 tomes, ça va se finir le au prochain donc. Blue Estate, donc créé par l'américain Victor Kalvachev, et puis qui est secondé par une armada de dessinateurs, donc je vais peut-être les citer, donc Robert Vallée, Nathan Fox, Toby Cypress, Tom Coker, Andrew Robinson, Peter Nguyen, Andy Kuhn et Andrew Osborne. Et donc en fait c'est une série un peu humoristique sur les à côté de Hollywood. Moi, je vous fais le pitch du troisième tome. Bruce Maddox, superstar de thriller hollywoodien, se fait refroidir avec son amant alors qu'ils allaient supprimer Madame Maddox. Le tueur était envoyé par le mafioso italien Tony Luciano qui fricotait avec la femme infidèle. Mais les truands russes, en affaire avec Maddox, voient d'un mauvais œil les western spaghetti et surtout cet assassinat qui sonne comme une déclaration de guerre. Le hic, c'est qu'une grosse valise de billets verts a disparu dans l'histoire. Et plutôt que de Western Spaghetti, c'est plutôt d'Hockey Coral qui va être question. Donc c'est une série dont les tomes se lisent très très vite, hein, Blue Estate. Donc ce sont des personnages qui sont des archétypes, dont les répliques, c'est en fait c'est un festival de d'arnaques en tout genre, de losers pathétiques, de mafia russe italienne, de d'électrons libres, de d'agents immobiliers véreux, voilà. Franchement, ce n'est pas... Je conseillerais pas ce comics en premier pour des gens qui veulent s'essayer à ce genre-là. Par contre, c'est une série qui est complètement décomplexée, dont le graphisme est suffisamment singulier pour être souligné, puisque c'est un jeu sur... c'est un graphisme assez radical, hein, en plus. Alors, c'est là où ça choque et où c'est bien aussi, c'est que comme c'est une armada de dessinateurs, on a des styles très très différents d'un chapitre à l'autre. Et donc, les personnages, les têtes ont peine parfois à les reconnaître. Donc le traitement graphique, des fois on est un peu déçu dans l'essai 1, mais finalement après que la dernière page du nouveau style soit finie, tu t'étais pris d'affection pour le nouveau style. Donc tous les styles marchent bien.
Ils ont quand même deux points communs. Primo, une palette de couleurs qui est assez vive, et secondo, quand même un dessin qui est très dynamique.
Oui, c'est dynamique, c'est
avec des cadrages des fois qui cassent beaucoup d'un plan à l'autre. C'est là où on voit quand même ce sont peut-être des dessinateurs qui sont peut-être pas très exercés mais très influencés. Mais après sur certains, c'est vrai que c'est waouh, il y a des idées qui sont vraiment pas mal du tout, bien exploitées, on a des harmonies, on a de la trame, mais oui, j'ai l'impression que c'est surtout du numérique.
Ouais, bah en fait c'est plutôt expressif comme graphisme, c'est surtout ça qui fait le sel des tomes. Après, si vous aimez bien les séries où il y a de l'humour, alors évidemment là dans celui-là, donc la couverture elle est un peu cachée, mais dans les dernières pages tu as la couverture en entier, puisque là c'est la maquette de l'éditeur qui est comme ça. C'est qu'il y a une grosse référence à Star Wars. Le meurtre au début, c'est Maddox donc qui arrive dans le dos de quelqu'un avec une seringue dans le cou, et il a un t-shirt gris moulant. Donc évidemment, si vous connaissez Dexter, alors il y a son acolyte qui dit: mais attends, tu te prends pour Dexter Morgan ou quoi? Non, mais c'est bien, je trouve ça cool et tout. Donc voilà, ça surfe un peu sur un esprit tarantinien. On va dire ça casse pas des briques, mais c'est suffisamment décomplexé. C'est idéal pour lire aux toilettes par exemple. De cola, mais sans le côté péjoratif qui va avec. C'est voilà, si tu veux te détendre, si tu veux, si t'es fan de polar, qui flirte un peu avec Hollywood, avec des univers à la Tarantino, Robert Altman, Roger Avary, voilà, des trucs comme ça, voilà. Donc Blue Estate, tome 3, c'est une série en 4 tomes par Victor Kalvachev et collectif, donc c'est plein d'armada de dessinateurs. Donc c'est chez Ankama dans la collection Hostile Holster.
J'avoue, j'ai triché, je ne savais pas quoi mettre comme ambiance.
Ah, je peux te dire que ça correspond pas du tout. Alors. Alors, le tome 3, c'est aussi un tome 3, spécial tome 3, tiens, aujourd'hui, donc de la série, cette fois-ci, Havre. C'est une série de bande dessinée également. Par contre, c'est pas du tout américain, c'est une série française. Ce tome s'appelle Les Illuminés et les Obscurs. C'est par Isabelle Bottian et Anne-Catherine Haute. C'est édité toujours chez Ankama. Donc, un duo de dessinatrices et scénaristes qui est derrière cette série qui est très, très, très surprenante. Certains masques sont finalement tombés. Le pistolero, complètement abattu après la mort de sa petite amie dans le tome 2, détruite par la sorcière au cours d'une vengeance implacable, n'a plus rien à perdre. Sera-t-il de taille à contrer ses pouvoirs ? Parce que chacun, ce futur post-apo, il y a le pistolero qui tire comme personne, des balles. Le nécromancien, donc lui, il fait revivre les morts et il arrive à donner des vies à n'importe quelle chose. Et donc la sorcière, c'est une empathe, donc elle arrive à se connecter avec l'humeur des gens et à influer sur leurs humeurs en les mettant en colère ou en se nourrissant des humeurs pour recueillir des informations. Plus loin, une dizaine de survivants issus de la cité de Castan se sont lancés dans le pari fou de trouver des réponses dans la capitale Caris. Leurs buts divergent. Religieux, scientifiques, politiques, militaires, humains, malgré leurs fréquentes oppositions, leur motivation ne faiblit pas. Mais rien ne les aura préparés à la plus terrible et finalement la plus logique des révélations. Donc voilà, rendez-vous dans ce tome 3 et dernier tome de cette trilogie bande dessinée post-apocalyptique. Donc le mystère a été entretenu sur les raisons de cet apocalypse. Les survivants, certains veulent se castagner la tronche, donc d'autres veulent vivre dans une communauté, certains ont besoin de leaders militaires, religieux, charismatiques juste pour les guider, d'autres sont plus des techniciens, un peu des électrons libres, un peu des loups solitaires. Chacun va essayer de s'accommoder avec cet univers post-apocalyptique qui est vraiment plombant. Il n'y a quasiment pas d'humour dans cette bande dessinée. À chaque fois, la patte de cette série, c'est que ça nous laissait sur un sacré cliffhanger à chaque tome. Donc je vais pas trop spoiler, j'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais si vous voulez vraiment découvrir cette série, attendez-vous à des gros chocs sur les dernières cases de chaque tome. Je sais pas si vous aviez lu les deux précédents tomes.
Non, ça me dit rien.
Non, parce que je les avais amenés, vous les aviez pas.
Si, je crois que je les ai lus. C'était assez spécial. Il y avait aussi un traitement de couleurs qui était vraiment particulier dans le thème de l'ambiance.
Voilà, l'ambiance est plutôt dans les couleurs pastel qui contrebalance totalement avec l'esprit. Futur post-apo, terre détruite et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de parlotte, c'est très bavard. Et c'est vrai que quand on le feuillette, ça paie pas de mine. Tu te dis, qu'est-ce que c'est, ce graphisme ? Mais finalement, c'est... Bon, c'est un peu réducteur de dire...
Il faut entrer dans l'histoire, de toute façon.
Oui, voilà, il faut entrer dans l'histoire. Et puis, c'est un peu raccourci de dire, c'est un futur vu par des femmes. Bon, mais c'est vrai que... quand tu es entré dans l'histoire, tu te dis, c'est en toi le contraste avec le traitement graphique, parce que c'est très, très, très noir. Et plus tu te dis qu'il y a de l'optimisme derrière, et plus ça te renvoie à la triste réalité où les personnages, tous les personnages sont dans des zones de gris, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, et c'est surtout du gris très foncé. Donc les personnages, à un moment donné, tu te prends sympathie pour un et tu t'aperçois que c'est un enculé, alors tu te dis tiens, tu vas prendre sympathie pour l'autre que tu avais détesté au départ, et puis tu vois qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, chaque communauté finalement a ses qualités, ses défauts. Et donc, il faut pas être trop dépressif avant de lire cette BD, surtout que la fin est vraiment scotchante. Voilà, donc c'est une série vraiment à découvrir. Donc Havre.
C'est pas évident à chroniquer en plein milieu une bonne série. Hein. C'est assez hardcore, faut avouer.
Ben, moi, franchement, je l'aurais pas reçu, je l'aurais pas lu. Voilà, franchement, j'aurais.
Et tu serais passé à côté de quelque chose.
J'aurais feuilleté, je me serais dit c'est quoi ce truc. Bon, c'est ça a l'air mou. Les personnages sont pas franchement sexy ou sympa, mais voilà. Et quand tu vois le scénario, comme toute série à bon scénario, tu te dis il n'y a pas vraiment besoin de plus. Il y a tous les ingrédients d'un univers futuriste. T'as des super pouvoirs, t'as des pouvoirs qui sont relativement discrets, mais qui les personnages qui en usent sont quand même assez puissants et permettent d'influer des civilisations et des communautés. Tu as des ambiances avec des tueurs, t'as des zombies, t'as des morts-vivants. Donc t'as tous les ingrédients qui sont faits pour du post-apo pur jus, mais traités différemment. Donc voilà, une série vraiment étonnante et à découvrir. Donc Havre, trilogie de bande dessinée par Isabelle Bottian et Anne-Catherine Haute dans le label Araignée. Donc c'est plutôt les BD un peu difficiles, un peu autorisantes de l'éditeur Ankama.
On est en direct sur Radio FMR 89.1 MHz et on me fait signe sur Twitter que Alix est une BD gay et Diefenthal serait parfait pour le rôle. Et nous avons...
Mais il est brun, Diefenthal.
Ah ouais, c'est vrai qu'il est pas blond et c'est vrai qu'Alix c'est vraiment le blondinet celte.
Moi j'aurais dit Benoît Magimel.
Et on a Yves Lavard qui est sur le plateau, pardon.
Alors attends, alors déjà tu vas te mettre ton micro face à toi.
Voilà.
Salut, bonjour à tous.
Voilà, ah. qui est venu en stage, je vais dire. Hein, donc il est en stage non payé pendant 2 heures, puisque en fait il est sur notre radio, mais qui est une radio qui n'est pas diffusée sur la FM.
Non, alors on est sur la web radio en fait étudiante, onde de choc. Alors pour l'instant on est mort parce que le président de la fac nous a tué notre local associatif car il a choisi de le garder fermé. Donc pour l'instant. Onde de choc n'aimait pas. Pour l'instant, j'enregistre des podcasts tout seul chez moi avec mon micro et mes amis. Et voilà.
Tu vas voir, c'est très difficile d'avoir un bon son chez soi. Hein. C'est assez hardcore.
Mais c'est assez facile d'ouvrir une porte.
Entre autres. On va continuer dans les sorties bande dessinée, mais cette fois-ci, c'est à mon tour. Et on va passer plutôt sur les mangas beaucoup plus légers, beaucoup plus. Plus légers, tout simplement, avec Kei Sasuga. En tant qu'auteur de Good Ending, tome 1 et 2 qui sont sortis ce mois-ci chez Kana. Et Good Ending, bah, ça commence assez mal en fait pour Seiji. Et lycéen, il est en seconde, il est puceau, il est plutôt timide. Et vient de se faire tabasser par une fille qu'il a surpris avec des jumelles.
Il regardait en fait parce qu'il est puceau et donc il cherchait.
Non,
jumelles pour regarder.
Non, voyeur.
Ah ouais. Mais non, il n'est pas voyeur. Il est juste secrètement amoureux de Sho, qui est une fille dynamique, sportive et menace du club de tennis. Bref, lui a tapé dans l'œil. Alors Yuki, la fille qu'il a surpris et qui lui a foutu une bonne tatane, décide de prendre en main Seiji. Non, pas comme ça, bande de dégueulasses. Mais alors, ok, Seiji, tu n'es pas un voyeur, mais tu es un garçon qui ne sait pas comment déclarer ta flamme. Donc, je vais te donner des cours particuliers de drague. Et on se retrouve dans un étrange ballet, pas vraiment ménage à trois, mais plutôt un espèce de hitch bénévole au lycée. Sauf qu'évidemment, bon, on est au lycée, et entre les cours de maths, de littérature et les activités de club, eh ben, il y a de la place pour les quiproquos. On est dans de la manga sentimentale, la bande dessinée à débit amoureux qui pourrait sembler être écrite pour un public plutôt féminin, mais qui pourtant paraît en prépublication entre Bleach et Naruto.
Oula.
Ouais. Ceux qui ont vécu les heures héroïques des éditions Tonkam se souviendront que Masakazu Katsura jouait sur cette ambiguïté avec beaucoup d'humour et de finesse en Video Girl Eye. Une série qui avait encore une dimension fantastique, puisque celle qui était censée guider le garçon... sortait d'une VHS, et j'expliquerai un jour le concept de VHS, et que l'auteur a supprimé pour la série suivante sur la même veine, à savoir Isus. Alors pourquoi un tel engouement dans les mangas ? Bon, vous le savez, le Japon est une société dont les relations sociales sont extrêmement codifiées, mais d'un autre côté, on a un type de jeu vidéo qui cartonne, les jeux de drague. Pourtant, ce sont des jeux assez frustes, qui ressemblent aux jeux d'aventure textuels du début des années 80. Dans ces jeux, il faut draguer une fille, et ceci exclusivement par les dialogues. Alors en fait, chaque fois qu'elle vous adresse la parole, on a le choix entre 4 à 6 répliques possibles. D'ailleurs, le titre « Good Ending » est une référence explicite envers ce type de jeu, avant qu'il se termine en général à sortir couvert. Bref, quand on y réfléchit, le scénario sur l'incompréhension entre les garçons et les filles, et où une fille va aider un garçon à draguer une autre fille, c'est un thème qui est présent dans la littérature depuis 20 ans, en fait, dans des romans un peu partout, soit la date de parution de l'essai de John Gray. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et dans le deuxième tome, Seiji va se retrouver lui aussi dans le rôle du mentor pour aider une fille amoureuse, mais très maladroit dans ses actes. En général, on est bon professeur quand on ne maîtrise pas complètement le sujet.
Donc ça veut dire que Seiji, il a conclu alors entre-temps.
Non, puisque on est dans le bon vieux principe du manga de garçon où tu dois apprendre en fait par l'échec et où tu vas passer plusieurs étapes avant d'arriver par l'entraînement.
Avant de développer ton super pouvoir.
Voilà.
Ouais. C'est le style shonen quoi. Ça donne le shonen.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Sauf que là, en guise de super pouvoir, au lieu de balancer des caméas, tu arrives à sortir avec une fille.
Bref. Alors bien sûr, c'est pas une bande dessinée qui va péter trois pattes à un canard, c'est de la sitcom pure et dure. Entre la fille qui se la joue d'infos parce qu'elle est persuadée que la perte de virginité va lui permettre d'obtenir le garçon qu'elle convoite, Seiji qui au début est vu comme un voyeur et se fait tabasser pour une fille, disons que l'énorme différence avec ce que nous a prouvé AB Productions il y a des décennies, Il y a deux décennies, putain. Oh là, on est vieux.
Ah ouais, c'est ça.
Ce sont les quiproquos sexuels explicites, les bastons aussi très explicites, quoique dans la dernière aventure de Hélène et les garçons, non, pardon. Un humour assez sale.
C'est vrai que t'as suivi ça assez longtemps, toi.
Il y a pas longtemps, j'ai vu une scène de bagarre de Hélène et les garçons.
Bah, il y en a qu'une.
Voilà, il y en a qu'une.
C'est dans la dernière épisode. C'est bon, allez, à ce stade, hein, on finit le contrat, donc on termine comme ça. Un humour assez salace, manantropo. Et puis finalement, même si on a une génération d'écart par rapport au lectorat cible, bah on s'identifie un peu aux personnages que l'on retrouve, ce que l'on a été à l'ère acnéique, nos premiers amours et nos fioles de Biactol. Depuis, la nouvelle génération a appris à utiliser Photoshop pour améliorer son profil de face dans les réseaux sociaux. Good Ending de Kei Sasuga, les deux premiers tomes sont donc sortis aux éditions Kana en traduction. Thomas.
Alors moi, de loin, parce que j'ai pas lu, hein, bien sûr, J'ai l'impression que c'est une série de bandes dessinées qui s'adresse en priorité aux puceaux. Est-ce que ça a l'intérêt pour quelqu'un qui est passé outre ce stade-là depuis
longtemps? Bah, je pense oui, parce que ça
résiste. Ne serait-ce que pour se remémorer sa jeunesse.
Ou se moquer de...
Ou les dessins intertitres avec les filles dans des positions, mais ça n'intéressera pas les filles.
C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des femmes à poil quand même dedans. Pardon. Ah, il fallait pas
j'essaie
dire.
De draguer en ce moment et je me sers de ça comme guide, donc...
Ah bah alors tu devrais aller ailleurs à mon avis.
Ouais, c'est ce que je pensais aussi.
Pas ceci dit, t'es pas très assidu parce que je vois que tu l'as pas fini le tome 2.
C'est pour ça qu'il était à Mixar Miris hier soir.
Tu parles.
Pour Pécho.
Non, vu le concert, non. Françoise Hardy, tous les garçons et les filles, hein. C'est pour que les souvenirs de du sport aussi remontent.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul. Car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Oh, quand donc pour moi le soleil. Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain. Moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Vous aurez vu la petite larme de Du Sport sur Françoise Hardy. De l'émotion pure.
Non, non, mais ça tombe bien parce
c'était,
que.
C'était la fumée.
Ça me donne l'occasion, ça me donne l'occasion de parler d'un disque.
À consommer avec modération.
Ça me donne l'occasion de parler d'un disque qui vient de sortir. D'un monsieur qui s'appelle Victor Hublot et qui nous a fait un disque où il ne fait que des reprises des années 60, dont cette reprise là. Il y a également J'aime pas le rock, le morceau de Jean-Yann. Il y a des morceaux un petit peu plus, on va dire, intellectuels de Brassens. Enfin bon, c'est vraiment très bien. Avec Jacques Duval également, quoi. L'écriture.
On a aussi une reprise un petit peu hardcore là, j'ai entendu d'un tube des années 80, qui est, oui. Des années 60, pardon, qui est en playlist. Je ne saurais dire, mais je crois que c'est Lady Tron qui chante.
Voilà.
Donc, Dus, de alors, la littérature.
Ouais.
Je le dis en français, puisque tu n'avais pas le titre français, Volteface.
Ouais, si, si, quand même. Enfin bon, je me suis
laissé. The Reversal.
Je me suis laissé convaincre après.
Michael Connelly.
Voilà, ouais.
Bon, on va y arriver, tu donnes les crédits, quoi.
Voilà, Michael Connelly, donc c'est le nouveau. Bah écoutez, c'est pas compliqué. De toute façon, Volteface, c'est le bouquin que vous avez en devanture de pratiquement. Cet été, qui était en devanture de pratiquement toutes les grandes librairies. Et même chez les kiosquiers, hein, qui vendent également un petit peu de bouquins, il fait partie des bouquins qu'on fout carrément en vitrine. Donc c'est le Michael Connelly. Alors j'ai pas compté le nombre de bouquins qu'il a écrit, mais enfin bon, depuis le temps, quoi, depuis le premier, ça fait quand même un sacré nombre, hein, puisqu'il a commencé à écrire son premier livre, c'était en 91-92, et d'ailleurs premier essai coup de maître, puisqu'il reçoit l'Edgar Award, qui est le prix du roman policier aux États-Unis. Bon, alors on peut se dire cool, le mec, ça va, quoi, il débute bien dans la carrière. Et avec son héros récurrent, Harry Bosch, Hieronymus Bosch, Harry bien sûr, le diminutif, apparaît également au fur et à mesure des aventures un deuxième héros qui est un petit moins récurrent, Mickey Haller, qui lui est un avocat, hein. Alors les deux premiers vont se rencontrer dans la troisième ou quatrième histoire de Harry Bosch, qui s'appelle Le Poète, qui est l'histoire d'un tueur en série qui bien trash, hein, vraiment trash, quoi. Et sa caractéristique, en fait, quoi, c'est de démembrer les gens, de les foutre dans les sacs poubelles et de mettre un petit papier avec un beau petit poème dessus. C'est pour ça qu'on l'appelle, les flics l'appellent le poète.
T'es horrible, des poèmes. Non, mais à cette heure-ci, on n'a pas le droit. Hein.
C'est à cette occasion-là que Harry Bosch rencontre Mickey Haller. D'autres aventures vont les faire se rencontrer. Et vont les faire se rencontrer. Bon, maintenant, je peux le dévoiler. Et vont les faire se révéler en tant que demi-frères. C'est-à-dire que Mickey Haller connaissait son père et tout, mais Harry Bosch, qui est le fils d'une femme qui a été portée disparue, hein, il l'évoque dans une aventure, qui a été portée disparue et qui a été retrouvée massacrée parce qu'elle était un petit peu facile, on va dire, hein, elle gagnait sa vie, voilà, quoi.
On peut dire le mot ou non, en fait?
Oui, une fille de joie, quoi, voilà, quoi. Donc on retrouve dans ce Reversal, alors en plus pour parler de Mickey Haller, hein, Mickey Haller, donc c'est un avocat, mais c'est un avocat qui est, on va dire, du mauvais côté, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre d'avocat que les flics détestent parce que il ne défend que des bandes de bikers, des criminels endurcis,
comme
enfin
ça,
vraiment
Goodman.
Vraiment des mecs dégueulasses. Et d'ailleurs, un film a été porté à l'écran concernant Mickey Haller, c'est La Défense Lincoln en français, The Lincoln Lawyer en anglais, avec Matthew McConaughey dans le rôle de Mickey Haller, hein. Et La Défense Lincoln, c'est vachement bien. Alors ça s'appelle La Défense Lincoln, en fait, parce que Mickey Haller a une caractéristique: il n'a pas de bureau. Il fait ça, il a une bagnole, une Lincoln Continental, donc vous voyez, c'est les grosses bagnoles, et son bureau, c'est l'arrière de la Lincoln. Et il a un chauffeur, et généralement le chauffeur, c'est un petit truand qu'il a défendu, comme ça qu'il a réussi à sortir. Alors il réussit toujours à sortir les gens qu'il défend de trucs incroyables, quoi, parce que il a le truc, il connaît le droit américain sur le bout des doigts, et là il n'y a pas de problème. Les mecs ils sortent alors que ils ont encore les mains pleines de sang, il essaie de faire un petit peu de la réinsertion, et il embauche justement des gens pour conduire la bagnole, quoi, pendant que lui il est à l'arrière en train de bosser sur son PC, sur son BlackBerry ou je sais pas quoi.
Et il explique pourquoi il a choisi de travailler dans la voiture.
Pas du tout. Non, c'est un mode de fonctionnement qui est pas plus con qu'un autre. Et là, dans The Reversal, Volteface, donc, eh bien, on va avoir une aventure dans laquelle Les deux demi-frères, eh bien, vont être présents du début jusqu'à la fin. Alors, le pitch est très simple, de toute façon, au départ. Michael Haller est un avocat de la défense. Il va être appelé par le substitut attorney de la partie civile pour reprendre une vieille affaire qui date de 24 ans. 24 ans plus tôt, une jeune fille est enlevée, violée et assassinée. On trouve son assassin. Son assassin est condamné. Pourquoi ? Parce que dans son camion, d'abord parce que la jeune sœur a bien vu le visage du type qui a enlevé la nana. Deux, alors un seul témoignage ça suffit pas pour la justice américaine. Deux, dans son camion on retrouve un cheveu de la nana. Et trois, eh bien sur la jupe du cadavre de la nana, eh bien on retrouve quelques traces de semences. Et donc, ça suffit pour le faire condamner. Manque de bol, ben 24 ans plus tard, c'est-à-dire de nos jours, eh bien des expertises sont refaites avec ADN. À l'époque, ça n'existait pas. Et il se trouve que la trace de semence retrouvée sur la... n'appartient pas au type qui a passé 24 ans au trou. Donc, première chose, c'est de libérer le type, ce qui est fait. Sauf que, eh bien, il y a des juges qui sont, et des flics qui sont absolument persuadés que c'est quand même lui qui a commis le crime. Et donc, eh bien, on confie à Michael Haller le rôle de passer de l'autre côté et d'être accusateur. Donc, et de refaire plonger ce type-là qui sort. Et pour cela, eh bien, il va s'adjuger, on va lui adjuger les services de Harry Bosch, qui va être l'enquêteur spécialisé pour essayer de dénicher toutes les petites choses qui pourraient justement refaire plonger le tueur présumé, quoi.
Mais attends, excuse-moi, mais il me semble que dans le système pénal américain, enfin dans le système juridique américain, tout comme le système juridique français, on ne peut repasser au tribunal, on ne peut rejuger quelqu'un pour la même infraction, même crime.
Tout à fait, et c'est là que c'est vraiment très très bien foutu, parce que dans cette partie, on va dire que c'est un livre qui est plus...
Oui, excusez-nous, on est entre experts.
C'est un livre qui analyse plus la procédure durant un jugement, durant une affaire, que une enquête de police. Harry Bosch, lui, on va dire, c'est le sous-fifre un petit peu. C'est Michael Haller qui détient les rênes. Mais détient-il tous les rênes ? Ça, c'est le problème aussi dans ce bouquin. Parce qu'il va s'apercevoir au bout d'un moment qu'on essaie quand même de lui foutre des bâtons dans les roues. Et c'est pas forcément la partie adverse qui lui fout des bâtons dans les roues. Bref, c'est vraiment très très prenant, parce que bon, là, on est vraiment du côté, justement, tu le disais, hein, c'est très assez fouillé au niveau de la procédure. Comment est-ce qu'on peut faire pour rejuger un mec qui a déjà été jugé, alors que justement, on peut plus puisqu'il a été condamné. Donc,
surtout qu'il a pris 24 ans, oui, et qu'il a rien fait. Enfin, moi, je pense que ça me...
Hein, c'est, voilà, alors le mec, il sort, il est vénère et tout, bon, il va, il est suivi, il y a des flics qui sont après lui 24 heures sur 24 et tout.
Même des gens qui veulent lui péter la gueule à la sortie de...
Non, même pas, hein, parce qu'il est vraiment protégé. Il va être cité à recomparaître, et il a pris un des meilleurs avocats de la défense, évidemment, ça va être assez rigolo de toute façon, quoi. Bon, c'est très très bien foutu. Moi, je vais pas dire que c'est le meilleur Michael Connelly, hein, de toute façon, quoi. Mais il se maintient à un niveau vraiment très 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 appréciable. Donc, Michael Connelly, donc volte-face. Bon, vous allez l'acheter en français et tout, mais sinon, c'est Reversal en anglais, chez Orion Books en anglais, ou chez Kalman Levy en édition française.
Et je suppose que tu as pas pu comparer les deux versions, du coup.
Non, mais écoute, je me suis dit je vais tenter le coup, on va voir et tout. Et je me rends compte que c'est vachement facile à lire, enfin, nettement plus facile que certains autres que j'ai déjà chroniqué en version originale dernièrement, quoi.
Donc faites comme du sport, regardez tous les procédurals. Cinéma.
Allez.
Attends, t'as encore fait un reboot ?
Alors, dans le cas de ce film, on nous avait essayé de nous faire prendre des vessies pour des lanternes au début en nous disant c'est une nouvelle adaptation du livre d'origine. En fait, pas du tout, c'est juste un remake. Ils ont complètement pas vu.
Non, je sais, on a eu un reboot entre temps, mais je crois qu'on a loupé un truc là au début. Tu parles de quoi ?
Je parle d'un voyage sur Mars qui, on sait pas trop s'il a eu lieu. Je
parle de Mars ! Mission to Mars.
Non, c'est un film sur le bonbon, Mars.
Sur les. Ouais.
Le Mars Free, c'est pas mal, mais alors ça a consommé avec modération.
Mars Attacks. Allez, non, cette fois-ci, c'est un film. un remake, donc qui s'appelle Total Recall. Voilà.
Mais c'est pour ça que j'ai mis un truc entraînant, pareil, que c'est une course-poursuite permanente.
Ouais.
Colin Farrell, c'est plus de l'écoute.
Voilà. Un film de Len Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston et Bill Nighy.
Wouhou,
ça pulse. Bien.
Alors toi aussi tu dis Jessica Biel.
Ah, il faut dire Bill Biel.
Non, mais vous allez.
Sinon on va dire Spielberg.
Hein?
Non, mais je crois que du sport il vient de couler une bielle là.
Spielberg.
Moi je préfère simplement l'appeler Jessica Biel. Vu comment elle est.
Bah c'est IE aussi hein, Spielberg.
Spielberg. Ah oui.
Biel.
Alors Bill. Jessica Biel. D'accord.
On appellera son agent.
Alors Douglas Quaid est un ouvrier qui fabrique des robots policiers, le HIC. C'est qu'il se fait chier grave au boulot. Alors pour changer les idées.
Bienvenue.
Alors pour changer les idées, il court chez l'entreprise Recall pour s'implanter des faux souvenirs palpitants. Un délire d'agent secret qui rencontre une belle nana. Sauf que cela réveille par mégarde des vrais souvenirs enfouis dans sa mémoire. Ce gars-là était un authentique agent secret devenu incognito en guise de couverture. Les forces.
Je suis incognito.
Je suis Nito, incognito. Les forces armées du dictateur Kohagen ainsi que sa propre femme Lori, elle aussi agent surentraîné, vont tout faire pour lui mettre la main dessus et neutraliser du même coup la résistance. Alors en sortant du cinéma, je me disais que la nouvelle version de Total Recall avec Colin Farrell, donc c'était une relecture peut-être sans imagination mais correcte. Bon, il faisait son boulot de film d'action et tout. Bon, en même temps, j'avais pas vu le bouquin de K. Dick, hein, donc voilà.
Or, malheureusement, dans la charte que Radio FMR a signée avec Radio FMR, nous avons obligation de faire des dossiers complets, de faire de l'informatif et de se renseigner. Donc, qu'a fait Thomas ?
Je suis allé acheter la nouvelle de Philippe K. Dick hier. Et donc, j'ai lu la nouvelle d'origine qui s'appelle Mémoire à vendre. Et là, plusieurs conclusions s'imposent. Je suis tombé des nues. Alors, première conclusion. S'il fallait le rappeler, je le redis. Donc, évidemment, Philippe K. Dick, à force de le dire, on s'aperçoit que c'était un putain de sacré auteur, hein, quand même.
Le maître du Haut-Château, d'ailleurs, est en
cours. Attends que tu te rendes compte.
Non, mais si, mais on s'en rend compte. Mais,
le maître du Haut-Château est en cours de tournage. Je me demande ce que ça va faire, ce que ça va donner. Mais un public avec un casting franco-japonais, ça va pas être triste. Donc, K. Dick, effectivement.
Deuxième conclusion, le premier film de Verhoeven n'a rien à voir avec le bouquin. Donc, ce qui prouve, comme le film est bon, que Verhoeven, en extrapolant complètement et en s'essuyant les pieds sur le bouquin, montrait que c'était lui qui avait la plus grosse perte de couilles d'Hollywood dans les années 90. Je suis... Voilà.
Et le plus gros budget.
Pas que lui.
Et le plus gros budget de l'époque.
Oui, pas que lui, mais bon, transformer un ouvrier en Arnold Schwarzenegger et en faisant massacrer à tout va, et puis surtout l'homme de main d'un prétendu dictateur, tout ça c'est inventé, qui se fait broyer les mains dans un ascenseur, moi je dis chapeau et j'applaudis. D'ailleurs j'applaudis. Dernière conclusion, le remake est à chier.
Ah d'accord.
D'accord, ok.
Alors le bouquin...
Mais il y a quand même quelque chose qui sauve les meubles, non ?
Tu parles de quelque chose avec qui est en forme de silhouette féminine en latex et qui s'appelle Kate Beckinsale.
Ouais, mais enfin bon, moi je pensais plutôt à Colin Farrell quoi.
Tu l'as vu ou pas ?
Non, justement quoi.
Alors Colin Farrell, à force de le voir dans les films, tu t'aperçois que son jeu de sourcils ne prend pas une ride, mais qu'il a pas grand chose d'autre.
Tiens, c'est marrant, ça me rappelle l'intro de cette émission quand on parlait du grand maître de la pensée stérile. Non ?
peut-être. En tout cas, Colin Farrell, bon, on y reviendra de toute façon. Alors, on parle du bouquin d'abord, ouais. Donc qui s'appelle donc Mémoire à vendre. Alors, on s'aperçoit que le bouquin, donc, il fait 30 pages. La nouvelle,
ouais,
pardon.
Une nouvelle, ouais.
Oui, c'est une nouvelle. Donc, bon, il y a des noms qui ont été changés, des raccourcis.
Protéger l'innocent.
Voilà, plusieurs personnages qui ont été soit divisés, soit réunis en un seul. Donc, on voit que c'est déjà beaucoup plus cérébral. Donc, déjà, il y a une idée super intéressante qui n'a pas été gardée dans les films, c'est Douglas Quaid possède un implant dans son cerveau. Alors, c'était dans le film de Verhoeven,
oui, ça y est, ouais.
Sauf que l'implant, il ne servait au méchant qu'à le localiser. Cette fois-ci, ça, en fait, ça permet à une brigade neutre qui s'appelle Interplan d'intercepter ses propres pensées. C'est-à-dire qu'il pense à un truc et la brigade est au courant. Donc ça, moi je trouve que c'est une super idée qui n'a pas été gardée. Donc évidemment, quand tu t'attaques à un remake, tu peux reprendre des idées du bouquin qui n'a pas été pris par le premier film. Donc ça, c'est, on voit que Len Wiseman est un pur suiveur et rien d'autre.
Bon, surtout qu'il y a une puce GPS entre nous, voilà, c'est standard. Tandis que là, effectivement, ça aurait été intéressant.
Alors, l'autre confirmation par rapport au style de Kadic, c'est que Kadic mettait plein d'humour dans ses histoires.
Ah ouais.
Donc là, on voit qu'il y a de l'humour parce qu'à un moment donné, il y a Quail qui dit donc si je pense ça, ouais, bon, vous êtes au courant, les mecs, ouais, bon, j'ai pensé ça, donc ça veut dire que, bon, vous savez que comme j'ai buté tel mec, je suis capable de te buter la gueule comme ça, hein, donc alors là, il le pense dans sa tête, donc tu m'approches pas, s'il te plaît. Et là, il n'y a pas de mots qui sont prononcés, c'est juste dans la tête, donc ça c'est très drôle, puisque c'est. Il y a du second degré et tout. Il est question de Mars, mais on n'y va jamais. Donc il y a une grande différence. Donc déjà dans le film de Verhoeven, on était quasiment que sur Mars, à part le début. Dans le film avec Colin Farrell, on n'y est pas du tout question de Mars, mais jamais. Donc l'humour, il y a finalement une espèce d'enchevêtrement qui va jusqu'à la surenchère, puisque Quail va donc l'entreprise ne s'appelle plus Recall mais Mémoire dans le livre qui date des années 60.
Donc à mon avis c'est la traduction française, parce qu'à l'époque on faisait des adaptations, on faisait vraiment de l'adaptation, c'est pas la traduction mot à mot.
Donc Quail va dans l'entreprise lui implante un souvenir comme quoi il a été un espion sur Mars. Ça réveille des vrais souvenirs, donc après un imbroglio en disant je tiens ma vie, je veux qu'on me laisse la vie sauf, vous allez me réimplanter d'autres souvenirs, vous allez puiser dans ma tête là un souvenir que je faisais enfant, que j'ai refoulé, puis comme ça vous me le mettez à la place, comme ça je perds pas ma vie, puis vous êtes tranquille, je bousille pas ma couverture. Donc, et donc à la fin la nouvelle se finit sur un nouvel implant qui est mis, sauf que là, le cerveau de Quail en fait fait un amalgame entre les deux, et ce qui au départ devait être une mission pacifiste, en fait il mixe les deux, et ce qui devait être donc un acte pacifiste transforme en un acte belliqueux, et donc il voit qu'on peut pas lui enlever la couverture, et donc ça nous laisse en suspens, on sait pas du coup s'ils vont le lobotomiser complètement ou si il va s'en sortir. Alors évidemment il y a tous les personnages sont un peu des pantins, ils savent pas trop quoi faire parce que cette mémoire c'est un beau merdier quand même. Le patron de la société Recall sort de tiroir des pochettes numérotées qui correspondent plus ou moins à des rêves. Alors bon, alors ce rêve là il est un peu original, donc on va prendre la pochette 66, la pochette 3 et la pochette 12 qu'on va disséminer dans son appartement. Voilà, donc c'est plein de petits détails comme ça qui n'a pas été du tout gardé dans les adaptations au cinéma. Voilà, donc bon, le bouquin, tu dis ça, mais d'une traite, tu dévores ça, bon, c'est du Kadic. Ce qui nous amène à la première adaptation. Donc là, je t'avais demandé de sélectionner une piste audio. Donc évidemment. Donc c'est pas grave, hein. On a mis un potager sur le siège de Réa.
Mais moi, par rapport à Total Recall, en fait, quand j'ai regardé le premier film, alors j'ai pas vu le nouveau, hein, mais je me suis un peu senti comme dans Running Man, en fait. Est-ce que quelqu'un a lu ici Running Man en livre?
Non, pas le livre.
Le livre, c'est un petit peu particulier parce que c'est un Stephen King qui est sorti sous pseudonyme, mais c'est un bouquin qui doit faire 180-200 pages,
il est assez court.
Mais qui est écrit au kilomètre. C'est vraiment sa particularité. C'est-à-dire qu'il a une idée, etc. Et après, il l'étend. C'est vraiment la particularité de Stephen King par moment. Il se fait pas chier, hop, je l'étends, etc. Alors que
c'est comme le double là, de Tom énorme.
Quand il écrit sous pseudonyme, en général, il le fait plutôt pour s'éclater et il essaie de faire des trucs très différents. Donc c'est ça qui m'avait surpris.
En tout cas, moi j'avais beaucoup aimé. J'ai été tout aussi déçu par le film. En fait, quand j'ai vu après le film avec Schwarzenegger.
Tu parles de Running Man.
Ouais, de Running Man.
D'accord.
Oui. Mais comme il a fait aussi Total Recall, en fait, ça me. Enfin, ça.
D'accord. Et est-ce que tu avais lu le bouquin de Kadic?
J'avais lu le bouquin de Kadic, non.
Non.
Pas pour Total Recall. Et
qu'avais-tu pensé de Total Recall en tant que film?
Bah, c'est un Schwarzenegger des années 80. Enfin, en fait, il est au même niveau pour moi que Running Man, quoi. Parce que je l'ai trouvé très mauvais. Enfin,
surtout que Running Man, le script original, dans le roman original, le mec est un gringalet et voilà, il va chez Andemol, pardon, excusez-moi, j'ai cité une marque, mais mais les mecs, ils profitent en fait qu'il est en attente, il est en train de lire un bouquin en fait pour en attendant de se faire caster, et on a pris une image de lui, on l'a complètement photoshopé pour le faire passer pour le gros dégueulasse que tout le monde a envie de tuer. Donc c'est un peu ça l'énorme différence, cette partie là psychologique est aussi un petit peu revendicatif et on part franchement garder. Après c'est vrai comme tu dis, c'est choisi de l'époque.
En tout cas, Total Recall, donc qui est sorti en 90 de Paul Verhoeven, donc c'était la grande époque de Paul Verhoeven qui sortait de La chair et le sang de RoboCop juste avant, donc Total Recall précédé de 2 ans Basic Instinct, donc c'était la période dorée de Verhoeven. Donc ce Total Recall là, cette patte là, c'était le carton pâte. C'était la violence gratuite, super gore. C'était, on prend Schwarzenegger, donc forcément le film va suivre Schwarzenegger. C'est pas Schwarzenegger qui va s'adapter à l'histoire. Donc qui dit Schwarzenegger dit un héros un peu pato, qui a la plus belle femme du monde dans son lit, mais il est pas heureux, donc il fallait faire passer ça. Schwarzy pendant tout le film, il a une chemise à carreaux qui est hideuse.
Fallait planquer sa carrière, donc ils le font faire du.
Oui, bon, planquer, c'est un ouvrier, mais c'est quand même Schwarzy en ouvrier. Donc c'est clair dès le départ que c'est pas un ouvrier comme toi et moi. Je suis désolé, mais la chemise, elle est pas là pour masquer ses muscles. Ensuite, on a, il va sur Mars, il tombe sur des mutants qui sont tous des cartoons. Il voit la mutante à trois seins prostituée. Il hésite entre une blondasse psychopathe avant l'heure, Sharon Stone, qui est remplacée par une brunette super athlétique qui est l'équivalent de Vasquez dans Aliens le retour. Quoi. C'est une nana qui est comme il n'y a plus d'hommes. Il affronte l'homme de main de Coagans qui est Richter, incarné par Michael Ironside au sommet de sa carrière, donc qui crie, qui gueule comme un putois à chaque fois que Schwarzy lui échappe après avoir buté la moitié d'innocents d'un escalator. Il arrive sur Mars, il n'y a plus d'oxygène, il y a sa tête qui enfle comme une baudruche. Bon, on voit qu'on est dans le carton-pâte et dans le troisième degré assumé, mais l'humour fonctionne parfaitement. C'était la période dorée des effets un peu chromés sur les typos. C'était l'époque où Verhoeven jouait beaucoup avec les fausses émissions de télé. T'avais même des jingles sur la société Recall avec une espèce de chant de cœur de complètement naze derrière. Recall, Recall, Recall. Mais
c'est une des caractéristiques de Verhoeven,
oui,
hein,
voilà.
Il exploite déjà dans RoboCop, qui va reprendre Starship Trooper aussi. Hein. C'est-à-dire l'influence de l'image, l'influence de la télé, l'influence des networks sur le monde, sur la population.
Et donc voilà, tout un jeu par rapport à ça. Le fait de, bon, alors il faut quand même rappeler que la moitié du film, c'est une invention, de la broderie par rapport à la nouvelle d'origine. Donc le chancelier Coagen, le fait qu'il y ait eu une catégorie de martiens avant qui ont mis en place le système d'hydraulique sur Mars, c'est complètement farfelu et complètement inventé par le film. Les mutants et tout, il n'y en a pas du tout dans le bouquin de Philip K. Dick. Et finalement, c'est ça qui marche, c'est ce côté surenchère. Et puis, c'est quand même l'un des meilleurs Schwarzenegger, faut quand même le rappeler. T'as cette boucherie qui est. Mais en plus, quand tu vois qu'il bute des mecs et tout, tu rigoles. Il y a le système de l'hologramme avec la montre qui est complètement cheap aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de.
Et tu te barres sur Mars.
Voilà, et tu te barres sur Mars. Alors, dans le nouveau film, il y a des clins d'œil par rapport au film de Verhoeven, dont le plus clinquant, c'est à un moment donné Colin Farrell qui arrive dans un terminal d'aéroport, et au moment donné, au départ, on voit la femme grosse, l'image que tout le monde a en mémoire de Schwarzenegger, qui est déguisée en femme forte, qui dit « je suis là pour 2 semaines » et commence à bugger. Et là, le terminal d'aéroport, t'as la femme, là, ils ont pris un sosie qui dit « je suis là pour 2 semaines », et alors tu crois que c'est elle, et en fait... Colin Farrell, c'est le déguisement qui est derrière. Donc il y a un petit clin d'œil par rapport à ça qui est mignon, mais ça va pas plus loin. Voilà, bon voilà, les films, bon moi je suis méga fan de Verhoeven, donc bon, il y a pas photo là-dessus. Toi, je sais pas, du sport, ton sentiment sur ce film-là, est-ce que justement le fait qu'il est mal vieilli par rapport à ce côté carton-pâte, est-ce que c'est pas vraiment mieux pour le film finalement, parce que c'est un charme désuet à l'époque où il y a les effets n'étaient pas numériques,
bah,
les effets étaient
je pense que
mécanique.
Personnellement justement le fait que ça soit carton pâte, on fait plus gaffe du coup aux effets, donc le film justement devient intemporel.
Oui,
voilà, c'est ça. Et le fait qu'il soit daté devient temporel.
Il n'y a vraiment plus que faux raccord pour voir qu'on a scotché une calculatrice au bras du garde pour faire high-tech et ce genre de choses.
À l'époque, on s'en rendait pas compte, hein.
Oui. Bah oui, mais maintenant tu t'en rends même plus compte, justement par le côté extrêmement. Voilà, c'est des voitures qui sont très grosses, etc. Des volumes qui sont très gros, les ordinateurs qui ont d'immenses tubes. Tu fais plus gaffe à ça, justement parce que bah, voilà, c'est du rétrofuturisme.
Et puis cette scène aussi où le double de Schwarzy qui lui dit il faut que tu t'enlèves un implant dans le nez, et puis il souffre sa race, et l'autre il rigole derrière, allez, fais-moi confiance. Donc c'est ce second degré dont Verhoeven a fait sa patte ensuite. Hein. Mm. Du sport.
Non, mais bon, de toute façon, quand le film est sorti à l'époque, je veux dire, c'était une bonne claque, quoi, de toute façon. Et pour l'époque, c'est-à-dire, bon, bah, c'était à la fin des années 80, bah, ok, quoi, c'était quand même les technologies bien en avance, quoi, pour l'époque, bien sûr.
Avant Jurassic Park, de toute façon, il n'y avait pas de 3D, donc ils se démarraient un peu comme ils pouvaient.
Elle n'était pas photoréaliste comme ça, enfin, entre guillemets, il y avait eu le T-1000, il y avait eu plein de trucs, il y avait Tron, oui. Dans un autre genre.
Non, mais sinon, bon, bah, ok. Hein, moi, c'est un film qui m'a bien marqué, de toute façon, quoi, à l'époque. Après, c'est vrai que le regarder maintenant, quoi, avec tout le décalage technologique qu'on a subi, depuis cette époque-là, ben, ouais, c'est sûr que les plus jeunes vont se dire, ouais, non, mais bon, c'est porte-un-wax, c'est n'importe quoi, regarde, c'est l'âge de pierre. C'est clair, mais enfin bon, on peut toujours se replacer dans le contexte de l'époque, hein, c'est pareil, on regarde un western des années 50, on se replace dans le contexte de l'époque également, sinon c'est pas la peine, on passe à côté de beaucoup de choses.
Alors maintenant on va parler du remake réalisé par Len Underwald Wiseman, qui est aussi le responsable de Die Hard 4,
celui avec le hacker
et okay. Avec Kevin Smith. Voilà. Donc Len Wiseman donc confirme encore une fois que ce n'est qu'un suiveur, ce type, donc sur Die Hard. De toute façon, avec la série des Die Hard, petite parenthèse, c'est bien simple. Mac Tiernan fait une tuerie, il est suivi par un mec, il refait une tuerie, il est suivi par un autre mec. Bon, c'est ça. Ouais. C'est voilà. Donc bon, après comparer Len Wiseman à Rennie Harlin, ça fait un peu mal au cul pour Rennie Harlin, mais bon.
Ouais, c'est vrai.
Quand même. Alors, donc la revisitation de la franchise de Total Recall par Wiseman, donc il n'est plus du tout question de Mars, mais d'une Terre post-apo et d'un ascenseur géant en fait qui relie l'Empire britannique à la colonie qui est donc une grosse colonie asiatique, et ça passe par le noyau terrestre. Donc c'est un ascenseur, en fait tu as des ceintures de sécurité avec des harnachements de partout, tu es ouvrier, tu vis à la colonie, tu vas travailler à l'Empire britannique et tu reviens. Donc voilà, c'est un ascenseur qui servira à un moment donné d'astuce scénaristique pour dynamiter un peu ce petit monde et puis pour faire évader des prisonniers.
D'accord, et donc en fait tu traverses la Terre.
Oui.
De part en part, quoi.
Tu traverses la Terre,
voilà.
De part en part.
Et donc ils ont réussi à arriver en Chine alors.
Oui.
D'accord.
Le noyau terrestre.
D'accord, c'est génial parce que je connais beaucoup de gens qui ont essayé de creuser pour. Ils n'ont pas encore réussi.
Bon, on va peut-être pas parler de The Core.
Non, mais, essaie de te passer dans la tête tous les films de métro, d'ascenseur, des trucs comme ça. Et là, tu te dis, tu réfléchis, et puis tu te dis, tiens, dans ces films-là, il y a toujours à un moment donné un endroit, un moment où le héros, en fait, est obligé de sortir de la cage d'ascenseur ou sortir du métro à la Tom Cruise dans Mission Impossible. Donc essaie de t'imaginer, non, ils n'ont pas fait ça avec le noyau terrestre où il fait facilement une chaleur à crever.
Et une pression à écraser une huître.
Voilà, donc cette anecdote et cette réflexion personnelle n'est absolument pas fortuite, et puis je vous laisse imaginer moult décalage par rapport à un prétendu réalisme que tout réalisateur devrait suivre. On parlait du jeu de sourcils de Colin Farrell. Le jeu d'acteur Colin Farrell qui remplace Schwarzy. Alors c'est vrai qu'il a plus le look d'un ouvrier. Mais après, bon, tu te dis, à part jouer avec ses sourcils, qu'est-ce qu'il peut faire, hein? À part, bon, voilà, quand tu l'as vu dans Bon Baiser de Bruges, tu vois qu'il avait, que ça allait mieux. Dans Alexandre, moi personnellement, je continuerai toujours à défendre ce film Alexandre Oliver Stone. Je trouve qu'il s'en sortait bien. Alors après, le jeu de sourcils de Farrell.
Non, mais c'est toujours pareil, hein. Je veux dire, un acteur est bon quand il est bien dirigé. Et bon, bah, pour être bien dirigé, il faut un bon directeur. Hein. D'accord. Bon. On parlait de Len Wiseman avant.
Donc, j'y suis allé avec madame. Donc, évidemment, elle est tombée amoureuse directe. Elle était déjà sous le charme de Farrell. Mais bon, voilà, c'était quelque chose que je n'explique pas. Il suffit d'être grand et d'avoir des gros sourcils en train de regarder dans tous les coins. Et les nanas tombent sous le charme. Bon, je suis désolé.
Emmanuel Chin ?
Ah ouais, oh. C'est peut-être. Ouais.
Bon. Avec le même jeu d'acteur.
Ensuite, cette fois-ci, ils ont fusionné. Donc le personnage de Sharon Stone et le personnage de Michael Ironside. Donc c'est la femme qui est le super agent méchant qui va courser Colin Farrell dans tout le film. Moi je dis, Kate Beckinsale qui fait le rôle, on n'a pas perdu au change. Et je vous confirme que...
Pourtant elle est entraînée, alors ça va.
On voit qu'elle est entraînée, on voit qu'elle est filmée amoureusement par son mari, puisque Wiseman est Monsieur Beckinsale à la ville. Il aura pris soin dans tous les films dans lesquels il l'aura fait tourner qu'elle n'a que des vêtements qui sont très très près du corps plus ou moins vinyle ou latex, donc évidemment ça lui va très très bien en prédatrice. Je trouve que c'est le personnage le plus réussi du film. Ensuite, Jessica Biel, on va passer sous silence sa performance, puisque apparemment dans le film c'était voulu que les deux nanas se ressemblent au niveau physique. Je suis désolé, Jessica Biel, déjà c'est pas Rachel Ticotin du premier film, et puis bon, elle fait un peu bonnet de nuit dans cette adaptation. Dans le rôle de Coagun, bon, Ronnie Cox c'était vraiment le personnage cartoon comme il avait fait dans je crois qu'il joue dans Starship Troopers aussi, mais surtout dans Robocop. Donc là il a été remplacé par Bryan Cranston qui fait un dictateur moins comics, un peu plus réaliste, mais bon, forcément t'en as vu 150 des comme ça, donc Cranston il s'en sort pas très bien non plus. Il reste quoi du film? Il reste les scènes d'action et ces beaux décors numériques à la Blade Runner, donc tout est numérique cette fois-ci. C'est très beau, les lumières sont très très belles, les scènes d'action c'est du Bourne, hein, du Bourne dans le futur, donc vas-y que la ville est construite. Bon, l'architecture de la ville sert pour les films pour ces séquences d'action, donc c'est plein de petits niveaux de bidonville sous une pluie battante, donc évidemment ils cassent tout. La course poursuite se fait sur des petits bateaux où il y a des vendeurs de petites échoppes, etc. Il y a un peu d'aérobot parce qu'au début tu vois que c'est lui qui construit les robots policiers, donc évidemment à un moment donné peut-être dans le film quand ils vont s'arrêter de courir pour réfléchir, il va peut-être falloir demander à quelqu'un quels sont les points faibles des robots. Ça tombe bien, au début du film, rappelez-vous, j'ai construisé des robots. Voilà. Donc voilà, il reste des explosions, il reste de la tôle froissée, il reste des scènes d'action à la bourne. Bon voilà, quand tu as lu le bouquin de Kadic et que tu as vu le film de Polo avant, t'as un peu mal au cul en sortant du film. Mais bon, si tu es
c'est quand même un reboot. Enfin, c'est comme quelqu'un qui va voir le nouveau Spider-Man, il aura peut-être pas le même plaisir que quand on a découvert le premier Spider-Man qui était génial, quoi. Mais je pense au plus
jeune. Et qui était quoi?
Il était pas mal.
Bon.
Il était pas mal. Non, c'est vrai que c'était pas le summum du Spider-Man, mais enfin, il était tout en 3D, il était en latex.
Voilà. Thomas, donc l'ensemble des références.
Oui, mais
sur
tu l'as
film.
Vu en 3D.
Non.
Ah bah t'as bien fait. C'est mieux.
L'ensemble
c'est mieux,
des
c'est
références.
Non, 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 pour...
Donc du
alors,
film.
Alors moi, je voulais juste argumenter dans son sens, non, justement quoi. De l'autre côté quoi, il peut y avoir des adaptations qui ne seront jamais littérales de toute façon et qui peuvent faire quand même de très grands films. Et là je vais prendre un exemple qui est peut-être ultime, hein, mais Le Grand Sommeil avec Philippe Marlowe, Bogart et tout. Eh bien dans le film il n'y a pas exactement la même fin que dans le bouquin, l'histoire n'est pas tout à fait la même et pourtant le film est quand même un chef-d'œuvre. Hein, donc il y a pas de problème. En plus,
adaptation ratée de Philip K. Dick, et pourtant qui est connu, c'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Blade Runner n'a très peu de choses à voir à mon sens par rapport au bouquin original.
Et pourtant le film est bien.
Et pourtant les deux sont géniaux. Ouais, ouais. Enfin le bouquin est un peu moins bien justement je trouve.
Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est complètement ce que je disais. C'est-à-dire, voilà, si tu es sans imagination, si tu es suiveur, autant faire un bon film, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, soit il aurait pu s'en sortir s'il avait proposé une autre adaptation complètement différente de celle de Verhoeven. Au moins, il n'y aurait pas été en full frontal et tout le monde aurait dit, ah ben tiens, pour les fans de Kadic, eh ben, l'adaptation de Wiseman sera peut-être un peu plus convaincante. Je suis tombé, en préparant l'émission, avant de rappeler les références de ces trois œuvres, sur un article du Monde qui disait les geeks hypermnésiques seront satisfaits car ils pourront faire plein de rapprochements entre les films. Alors je suis désolé, mais essayer de parler des geeks quand on n'est pas geek, bah, forcément tu te heurtes à des
écueils.
Bah non, ouais, mais, non, on mais, se croirait sur la chaîne manga d'Abbé, ouais, on lui avait croirait sur Game One.
On lui avait demandé un papier en temps de ligne et puis il lui en manquait 3 ou 4. Alors il s'est dit, bon, bah je vais boucher un peu.
C'est qui l'a écrit parce que
je sais plus, mais je te retrouverai la référence.
Si je le connais, j'aurais juste l'air très con.
alors voilà, dans les références, donc la nouvelle de Philippe K. Dick s'appelle Mémoire à vendre. J'ai acheté, alors en VO, je vous retrouve le titre. C'est une nouvelle qui a été qui est parue dans Fantasy and Science Fiction en avril 66 qui s'appelle We Can Remember It For You Wholesale. Donc c'est dans un recueil qui s'appelle Total Recall pour surfer sur la vague de la
sortie
cinéma.
Ouais, mais c'est la
réédition,
ça.
Alors là, je suis vachement mal au cul parce que c'est Colin Farrell qui est en couverture, donc bon.
Bah oui, ça.
Réédition Folio SF, donc forcément opportuniste vis-à-vis du film. Ça.
Voilà. Non, mais bon, mais ils l'ont fait aussi avec Drive.
Ouais, bien sûr.
Je veux dire, bon. Voilà.
Tous les éditeurs le font de toute façon.
Oui, oui.
Voilà, donc ça c'est la nouvelle. Ensuite, la première adaptation, c'est Paul Verhoeven avec Schwarzenegger qui est sorti en 90 avec Sharon Stone. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la performance de Sharon Stone sur quelques secondes d'une scène juste avant qu'elle se fasse buter qui a convaincu Verhoeven de lui offrir le rôle de prédatrice sexuelle dans Basic Instinct. Ouais. Et donc la référence de cette nouvelle de ce remake du premier film, donc réalisé par Len Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale et Jessica Biel, qui est actuellement encore au cinéma. Et voilà ce qu'on pouvait dire.
13h10 sur Radio Éphémère 89.1 MHz. Dossier spécial Total Recall par Thomas. Tu vas le mettre sur ton blog
Non, je ne mets plus d'article cinéma sur mon blog.
C'est dommage. C'est dommage parce que celui-là était vraiment
pas mal. Il en a marre
de
casser les films.
Ouais, ou peut-être si vous êtes sage, je mettrai peut-être un fan art et je développerai un peu plus ce que j'ai pensé du film. Et maintenant, c'est fini. Je vous l'assure, les enfants, les textes, c'est fini sur mon blog.
Ben, vous pouvez faire pousser les demandes sur Facebook et sur Twitter et sur G+. Voilà, comme ça, peut-être qu'il changera d'avis. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. C'est juste pour un week-end numéro 323 et un petit peu de Kid Loco. I Can Let It Happen to You. Et après, sera la téloche.
I can't.
Kid Loco, It Can't Let It, I Can't Let It Happen To You, c'est extrait de l'album Kill Your Darlings.
Ouais, t'aurais pu passer un extrait du dernier aussi, quoi. Enfin bon,
ouais, non,
je sais que t'es un peu en retard.
Non, merci. Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries. C'est sympa, Dus, merci.
J'adore votre jingle, franchement il est génial parce qu'il est vrai.
Là, tu,
ouais, il a été fait au départ pour, les, pour la bande dessinée feuilletonnante, tu vois, il y a.
Vous avez regardé les épisodes de Stargate pour le faire?
Non, bah il y a 20 ans Stargate n'était pas encore sorti. Dus.
Si, le film.
Non, c'était après. Je m'en souviens bien. Je m'en souviens bien quand je l'ai
vu. Le film Stargate est sorti en 94.
Ouais. Il était sorti après. Il est sorti après. Bon, t'y vas, oui ou merde.
Ok. Bon. Dis bonjour à tout en Camon du con.
Non mais en fait, j'essaye de tirer en longueur hein, parce que moi j'aimerais bien terminer.
Non.
Il a pas fini sa clope.
Non. Mais après ça pue dans les studios et tout, ça va quoi. Attends, je
gueule. Nous, on de choc, et ben on autorise toute fume à l'intérieur du studio.
Non, c'est pas, en fait. C'est pas toi qui as ce micro qui
et
est...
toi, on n'a pas le droit de fumer dans le studio, quoi.
Bah oui, je sais, c'est moi qui, normalement, tape sur les doigts.
Ok, bon, alors, des séries. Alors, c'est pas mal parce que j'ai repris la feuille de la semaine dernière.
Oui, oui. Donc, le fameux programme avec que des Nicolas dedans, c'est ça?
Non, pas du tout, quoi. Ah, bon. Parce que, bon, la sélection film, c'était des films avec des grosses bournes dedans, quoi. Je me suis dit, bon, ça allait bien avec la semaine dernière. Par contre, les séries, bon, bah, c'est des séries, donc elles sont encore à l'antenne... à la télé cette semaine, et bon, ça vaut quand même le coup d'en parler parce que c'est du nouveau et c'est du pas mal quand même.
Du nouveau, quand tu as deux semaines de retard, t'es déjà à la mi-saison.
Non, parce que bon, bah en fait, les séries ont démarré la semaine dernière avec le système de rediffusion toujours en actualité sur de nombreuses chaînes, il n'y a pas de problème. Voir la VOD, eh bien, on peut revoir ce qu'on a manqué en direct lors de la première diffusion. Alors là, la première, c'est Boss qui raconte l'histoire du maire de Chicago, Tom Kane. Tom Kane qui est atteint d'une maladie incurable, mais qui décide quand même de garder les rênes du pouvoir.
Et pour ça, bah, il va utiliser... Et puis je vous emmerde, hein ?
Ouais, et puis il va utiliser absolument toutes les ficelles, même les plus inavouables, quoi, pour se maintenir au sommet.
Alors, vous mettez telle actrice sur écoute.
Voilà, alors donc ça vaut surtout parce que bon, bah, c'est une série à gros budget et avec des acteurs de première catégorie. Kelsey Grammer, qui joue le rôle de Tom Kane, donc Kelsey Grammer, qui a obtenu le Golden Globe pour ce rôle déjà. Et bon, bah, on connaît Kelsey Grammer pour Frasier, hein, c'est la sitcom qu'il a fait plus ou moins révéler, on va dire, bien qu'il avait déjà un âge mûr, un âge certain quand il était dans Frasier.
Et le fauve.
Et
c'est pas lui qui joue le fauve dans X-Men 3?
Non, il me semble pas.
Si,
non.
Si.
Ah, peut-être, ouais. Oui,
là, je sais pas, là je peux pas tester. Je peux pas.
Il me dit non en plus.
Non, mais je dis.
Non.
Alors, on a également Colin Nielsen, Martin Donovan, etc. etc. Enfin,
alors,
bon, bref,
qui
quoi.
Joue le rôle de Edwy Plenel?
Alors, ça, j'en sais rien.
Parce que, y en a qui disent que ce serait inspiré d'un certain président.
Oui, mais enfin bon. Ok.
Voilà.
Alors, ça a été diffusé et donc programmé sur la chaîne Starz, une petite chaîne qui nous a déjà sorti quelques séries assez intéressantes et qui se veut comme étant le petit outsider de HBO et de Showtime aux États-Unis, c'est la chaîne câblée, mais qui mettent quand même vachement de sous dans des programmes de qualité.
Enfin, Starz, c'est eux qui ont fait Mad Men, non?
Ou entre autres, plus d'autres. Ouais. Enfin bon, ça va.
Ouais, hein, ça va, ils cartonnent quoi.
C'est de la qualité quand même. Hein. Alors, c'est samedi donc, le samedi soir à 20h40 sur Orange Ciné Nouveau. Ça ne s'appelle plus Orange Ciné Nouveau, mais ça s'appelle OCS Nouveau. Parce que ça y est, depuis cette semaine, c'est officiel.
C'est Canal Sat.
C'est Canal Plus. Enfin bref, quoi. Ça change pas beaucoup de toute façon. Parlons également de Girls. Alors, c'est une série qui est imaginée par une nana de 26 ans qui s'appelle Lena Dunham, qui dans cette série est scénariste, actrice principale, productrice exécutive, réalisatrice de la moitié des épisodes de la première saison. Alors, t'imagines un petit peu le truc, qu'une nana de 26 balais, on lui confie les rênes d'une série hop, vas-y, démerde-toi. Et pour une histoire qui, somme toute, est assez bateau, en fait, c'est une nana qui vient de la campagne et qui va aller à New York pour faire des études. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ses parents vont lui couper les vivres. Comment elle va faire pour survivre dans la jungle de New York ? Voilà, c'est le pitch. Vous voyez un petit peu le truc ? Et pourtant, c'est HBO qui diffuse cette série, hein, qui a foutu des pions dans cette série pour la diffuser. Et nous, ben, on peut la voir sur Orange Cinémax, c'est tous les mardis à partir de 20h40. La saison 3 de Justified, c'est également le dimanche soir sur Orange Cinéchoc ou OCS Choc.
Hein, ouais.
D'accord, ok. Dimanche soir, donc, à 20h40, en full frontal, avec la nouvelle série de Sarah Michelle Gellar, Ringer, qui est diffusée tous les dimanches soirs à 20h40, donc sur Teva depuis dimanche dernier. Alors, le pitch de Ringer est relativement simple. C'est raconte l'histoire de Sarah Michelle Gellar, qui se prénomme Bridget, qui est une ex-toxico et qui vient d'un petit patelin d'Arkansas ou Missouri, enfin bon, de, hein, dans le trou du cul de l'Amérique, et qui est en programme de réhabilitation, quoi, avec un sponsor bienveillant. Sauf que, elle reçoit un petit appel de sa frangine, sa sœur jumelle, qui elle habite New York et qui est décoratrice d'intérieur. Son mec, son mari est un mec, Johan Grofud, est un mec qui est un trader, qui réussit, qui a pas mal de pognon. Bref, enfin, rien à voir avec sa vie. Alors, on va se rendre compte que Sarah Michelle Gellar, elle ne fuit pas pour n'importe quoi. Elle part pas de son petit patin paumé pour aller à New York pour n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que, bon, en même temps, elle est liée à une affaire de meurtre de la mafia locale dans laquelle elle est le seul témoin. Hein, elle a vu le grand boss tuer quelqu'un, donc elle est le seul témoin et elle doit témoigner. Sauf que, avant le jour où elle doit passer au tribunal, elle est plus là. Hein, elle est protection de témoin. J'étais parti chercher un café, puis elle est revenue, elle était plus là, quoi. Donc elle se barre à New York, elle va retrouver sa sœur avec laquelle, elle est démêlée assez spéciaux, on va dire, ce sont des sœurs jumelles, mais l'une d'elles, Bridget, a tellement tiré sur la corde avec l'alcool, avec la dope et tout ça, que la frangine, au bout d'un moment, a dit casse-toi, je veux plus te voir et tout, et puis retrouvailles et tout. Alors, faut remettre, merci à la technique et tout, parce que avoir deux Sarah Michelle Gellar, l'une en face de l'autre, avec pas les mêmes fringues, pas le même aspect physique, on va dire, au niveau du maquillage et tout, quoi, mais c'est carrément hyper bluffant. Là, c'est vraiment bluffant, parce que c'est Sarah Michelle Gellar qui joue les deux rôles, hein, des frangines. Et là, c'est hyper bluffant. Vraiment, c'est très très fort. Il n'y a pas de problème. Et mais seulement le problème, c'est que une fois les retrouvailles consommées, on va dire, entre les deux frangines, la frangine new-yorkaise, va disparaître. Alors qu'elle se balade sur l'Hudson à bord d'un canot moteur, faire la pêche et tout ça et tout, quoi. Bridget se retourne et puis à un moment, elle est plus là, ma sœur. Puis on voit un truc qui flotte un peu plus loin, quoi. Donc probablement elle s'est noyée, elle a disparu. Et que va faire Bridget, qui est, je vous rappelle, poursuivie par les types qui veulent la descendre, mais également par l'agent du FBI qui est chargé de sa sécurité et qui devait l'amener au tribunal, donc il va remonter jusqu'à New York pour essayer de la retrouver. Elle va prendre l'identité de sa frangine. Seulement, elle va se rendre compte que sa frangine n'était pas l'oie blanche qu'on croyait qu'elle était. Alors déjà, elle va rentrer dans la vie privée de sa sœur. Elle se rend compte que sa frangine, malgré son mari, avait un amant, et puis qu'elle dissimule quelques petites choses pas trop catholiques. Donc à partir de ça, on se dit « Ah, là, ça va commencer à devenir hyper intéressant !» Surtout, et là c'est le dernier spoil que je ferai, hein, parce que ça apparaît dans le deuxième épisode,
spoil à moitié.
Hein, voilà. Surtout qu'on se rend compte que sa sœur n'est pas morte du tout, mais qu'elle est planquée à Paris.
N'importe
alors,
quoi.
Pourquoi ? Alors pourquoi, c'est ça, c'est le pourquoi qui est très très intéressant, et ce pourquoi, pour l'instant, on le saura demain soir, parce que dans les trois premiers épisodes, on sait toujours pas pourquoi elle s'est barrée. C'est très très bien foutu, les acteurs sont très très au point. Sarah Michelle Gellar sort de son rôle de Buffy.
Et par contre, pour faire du Jean-Claude Van Damme maintenant, puisqu'elle fait le double rôle.
Tu crois qu'elle
pas
est
pas tant que ça, non, 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 pas tant que ça, hein. Pas tant que ça,
non,
hein, quand
non,
même, quoi.
Non, non.
Si,
non.
On parlait double rôle.
Ah oui, c'est
de
vrai, ouais, qu'il y a un film avec deux Jean-Claude Van Damme.
Il y en a plein.
Hein, bah, il y en a 4 ou 5.
Plein. Mais tu connais pas assez tes films, toi.
Ah non, mais moi j'ai pas grandi dans les années 80.
Bah non, Réplicant, ça date fin des années 90, quoi.
J'étais trop petit.
Attends,
on m'interdisait le Jean-Claude Van Damme, à ce qui paraît, ça rend bête.
Bon, j'en reviens à Ringer, hein, quand même, pour terminer, avec, donc, outre Sarah-Michel Gellar, Christopher Pala, qui joue le rôle de l'amant, Yoann Gruffudd, donc, qui joue le mari de Siobhan, la sœur de Bridget, Nestor Carbonell, qui interprète le rôle de l'agent du FBI, Nestor Carbonell, c'est le maire de Gotham.
Oui, oui, ah, celui qui a les gros sourcils noirs, qui est voilà. un peu indien, un peu.
Voilà, ouais, ouais.
Qui joue dans Lost
Latino.
Aussi. Oui,
Latino.
Oui, Latino.
Latino.
Oui.
Latino. Et c'est lui qui est Yes We Batmanuel dans The Tick. Rappelez-vous.
Ah, c'est vrai.
Mais... eh oui, Batmanuel, c'est lui. Ok, donc c'est créé par deux scénaristes qui pratiquement débutent, hein, parce que leur seul boulot marquant, on va dire, ça a été de travailler sur quelques épisodes de Supernatural. Et là, ils ont une série à eux. La musique est celle d'un revenant, mais elle n'a rien à voir avec la musique qu'il a fait connaître, c'est Mark Snow.
Oh,
ah,
X-Files.
X-Files.
Hein, X-Files, quoi, donc.
Et donc, le spécialiste des nappes.
Alors, franchement, je vous enjoins de regarder cette série parce que ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est une série à épisodes, c'est-à-dire, on loupe un épisode, on est un petit peu mal sur le suivant par rapport aux différents rapports qu'il peut y avoir entre les personnages. Donc, séance de rattrapage peut-être pour bien se mettre dedans avec les trois premiers épisodes qui ont été diffusés dimanche dernier. Et ensuite, demain, trois autres épisodes de cette série qui en compose 22. Et il n'y en a que 22 d'ailleurs, hein, de toute façon, quoi, la série s'arrête à la fin de la saison. Ringer, donc, c'est sur Teva demain soir à partir de 20h40. Sinon, savez-vous que c'est demain soir, très tard dans le soir, à 1h15 du matin, que débuteront les Emmy Awards, Non, 1h45, pas 1h15, 1h45.
Sachant que ça dure 3 heures minimum.
Mais c'est pas grave.
Moi, je pense à ma timeline Twitter.
Mais c'est pas grave parce que tu as une rediffusion le lendemain soir en prime time à 20h50 également sur Série Club.
D'accord,
t'es rassuré?
Ouais,
alors ça va.
Ça va mieux là?
Voilà. Allons, passons au film à présent avec ce soir sur TV Braze un Steven Spielberg avec Peter Falk dedans. Celui-là, tu le connaissais pas?
Si, c'est un des Inspecteurs Columbo.
Voilà, le livre témoin avec Martin Bilner, donc de 71.
Il en a fait deux, il me semble.
Il en a fait deux, ouais, c'est vrai.
Je crois qu'il il a fait avant Duel d'ailleurs, non?
Juste avant, hein, c'est en 71, ouais. Là, quoi. L'histoire c'est l'histoire d'un écrivain qui est assassiné, mais on ne trouve pas le corps. Et la solution se trouve. Non, je vous le dis pas.
Malgré les rediffs, on va pas vous le spoiler.
Réfléchissez, voilà. Écrivain, réfléchissez. Ok. Sur TCM ce soir également, deux excellents westerns de Bud Boticher. Comanche Station tout d'abord à 20h40 avec Randolph Scott, Nancy Gates, Claude Akins en 60, puis Décision à Sundown avec encore Randolph Scott à 21h55 et Noah Beery en 57. Il faut dire que Bud Boticher a quand même tourné 7 westerns avec Randolph Scott, hein, et tous vraiment très très bons au niveau bonne série B, quoi. Demain sur Canal Plus Cinéma, Harry Brown de David Barber, c'est sorti en 2009 avec Michael Caine, Emily Mortimer, David Bradley, pas le David Bradley des films d'action, mais le David Bradley qui interprète Argus Filch dans Harry Potter. Ok, un vieux personnage, quoi.
Ouais, d'accord.
Ok. Alors Harry Brown ressemble bizarrement à un autre film avec Michael Caine.
La loi du milieu.
Voilà. Donc c'est le même pitch pratiquement. Hein. Une histoire de vengeance, quoi.
Il avait bien divisé ce film à sa sortie, Harry Brown. Hein. Beaucoup l'avaient attaqué, d'autres avaient dit ah c'est dans l'esprit des années 70, mais il était assez sauvage, hein, apparemment, non?
Michael Caine s'est fait une répute d'enfer justement dans les films dans les polars anglais des années 70, donc c'est un peu logique qu'on essaie de profiter de sa notoriété, surtout que c'est des films qui d'ailleurs semblent revenir beaucoup à la mode en ce moment aux États-Unis sur les chaînes câblées.
Qu'on n'a pas d'idée, hein, on reprend celle qu'il y avait avant. Hein.
Mmh.
Essaye de pêcher assez loin pour que les gens se souviennent pas, quoi.
Len Wiseman, si tu nous écoutes.
sur Ciné Frisson demain soir à 20h40, The Losers, dont je vous avais présenté la BD en deux tomes. Le film n'est pas sorti en salle en France, donc c'est un DTV, quoi. Mais là, bah ok, quoi, sur Ciné Frisson, on nous propose cette deuxième diffusion, parce que la première avait été faite par Canal+, avec bon le casting qui tue, quoi. Jeffrey Dean Morgan, Zoé Saldana, Chris Evans, Idris Elba, enfin bon, vas-y, c'est
ouais,
bon.
Quand même.
Tu dis, ouais, quand même, quoi. Hein, ok, quoi. Bon, le film n'est pas vraiment fidèle à l'histoire du livre, mais reprend quand même le thème principal, à savoir la trahison d'une bande de mercenaires, bref, mais je pense que ça vaut le coup de se le taper. Sinon, bah, un bon petit classique, un polar sur TCM à 20h40, c'est une soirée spéciale Preminger avec un si doux visage, Mitchum, Gene Simmons et Brandon O'Neill. C'était en 52 et 4 ans plus tard, Preminger se dit, tiens, je vais choper le mec qui fait craquer et mouiller toutes les culottes des petites filles et je vais lui faire jouer un rôle dramatique de toxicomane. Oh mince. Et c'est là que Frank Sinatra a chopé son Oscar dans L'Homme au bras d'or.
Et je crois que cette soirée TCM, il y a un mini documentaire en plein milieu, mais je suis pas sûr.
Non, c'est pas celle-là. Donc c'est sur TCM demain soir, et sinon sur la chaîne Polar à 21h, L'Arme suprême de Charles Kanganis avec Tracy Lords, Yaphet Kotto et Scott Patterson. Un film où elle se démerde vraiment pas mal, quoi. C'est un de ses premiers films où on lui offre un rôle sérieux et où il n'y a pas de référence à son passé de porno star. Et moi, je trouve qu'elle se démerde vraiment,
c'est
vraiment très bien. Non, mais c'est vrai.
C'est une perte, hein, au niveau du film.
Ah, mais non, pas du tout, quoi. Alors, lundi, dimanche, toujours sur FX, Tremors de Ron Underwood, le classique, hein, avec Fred Ward, Kevin Bacon et tout. Mais à 22h35, faites-vous une petite gâterie avec Repo Man de Alex Cox, un film complètement porte-nawak dans lequel Emilio Estevez qui joue le rôle du Repo Man. Repo Man, c'est Repossession Man, ce sont les mecs qui vont chez les gens qui n'ont pas payé leur...
Oui, ce sont un peu l'équivalent des huissiers, quoi.
Voilà, sauf que là, c'est des gens qui sont privés, c'est-à-dire qui sont engagés directement par les... C'est-à-dire tu payes pas les traites de ta bagnole et tout, c'est le garage qui vient saisir le truc, hein. Ça passe pas par la justice et tout, donc c'est un Repo Man. Mais bon, alors l'histoire part doucement, quoi, mais alors à partir du moment où le mec il ouvre le coffre d'une bagnole et il se rend compte que bon, ils vont être envahis par les extraterrestres, ça part en porte-nawak. C'est
d'accord,
carrément génial. C'est carrément génial. Et c'est quand même Alex Cox qui nous avait fait un an ou deux ans plus tard le Sid and Nancy, hein, le film d'après la vie de Sid Vicious, quoi, et qui était vraiment très très bien, quoi. Donc pas mal, quoi, pour Alex Cox qui est britannique, je le précise. Lundi, cinéma britannique, non, acteur britannique, dans un film britannique, Layer Cake de Matthew Wong,
hein,
sur Canal+, avec Daniel Craig et Colm Meaney, entre autres. Sinon, on a Colm Meaney qui n'est pas le frère de Bernard.
Oh là là,
oh là, là,
Sifi,
oh,
lundi.
Il a osé.
Sifi vous propose lundi à 20h50 Impostor de Gary Fleder. Gary Fleder qui est plus connu pour ses réalisations d'épisodes de télé, on va dire, hein. Bien que on lui ait confié les rênes d'un film, je crois que c'est lui qui avait fait X-Files, me semble-t-il, quoi.
Je ne pense pas, puisque non, c'était Roboman qui avait fait X-Files.
Ah bah oui, moi, c'est l'un des autres. Enfin, bon,
j'ai
voilà,
les PC, hein, qui sont éteints, donc là je peux pas intervenir.
Voilà. Ah, ok. Alors Impostor avec Gary Sinise, Vincent D'Onofrio, Madden Stowe, hein, l'histoire d'un mec qui veut aller sur Mars, ça vous dit
oui,
rien,
mais je crois que c'est inspiré aussi de Kadic, Impostor. C'est
aussi... et peut-être de la même nouvelle.
Ouais. Suivi, okay. Alors demain, donc Impostor à lundi sur Sifi, suivi de Bienvenue à Zombieland, quoi. Magnifique, excellent. Bill Murray, tu es le plus grand, magnifique, excellent. Et je parle même pas de Woody Harrelson qui tient peut-être le rôle de sa vie dans ce film, à mon avis. Sur TV Braise, lundi encore, Garde à vue de Claude Miller, ça c'est du grand classique, quoi.
Hein, immense huis clos.
Cero, Romy Schneider, Guy Marchand, vraiment.
Immense huis clos filmé au néon, il est fabuleux.
Ça tue. Et il y a également lundi sur Action à 20h40 le film que je t'ai fait regarder et puis que tu m'as dit c'est une arnaque et tout dans ce film.
C'est quoi ?
Ninja en guerre de Casper Van Dien avec Anthony Wong. Avec Casper Van Dien et Anthony Wong.
Mais c'est un faux Anthony
Wong.
Mais
c'est pas le bon. C'en est un autre. Bon, enfin bon, c'est quand même assez rigolo parce que Casper Van Dien, dès le début jusqu'à la fin, il est flic du début jusqu'à la fin, il se prend des tares dans la gueule, prend des pains dans la gueule et tout, mais il est toujours debout, il n'y a pas de problème et tout. Hein, et il est quand même costaud. Hein.
Bah, quand il a buté des arachnides, on peut s'attendre à tout après.
Ouais. Bon, bah, comme on est dans l'asiatique sur OCS Choc, donc toujours lundi, eh bien, on vous propose les deux films de Jonito, Élection 1 puis suivi de Élection 2. Au moins, ils sont pas cons, ils mettent pas le 2 avant le 1.
Ça, c'est bien.
Comme la plupart oui. des chaînes le font. Genre, on met le plus récent parce que sinon les gens ils vont rien comprendre. Bon, bah, ok.
C'est vrai qu'il y a une.
Voilà.
Ouais, c'est assez bizarre.
Surtout que c'est un putain de polar hongkongais. Ça aurait été dommage d'inverser.
Mardi sur Arte, il y a un excellent documentaire à 21h45. C'est une rediffusion, mais enfin bon, ça vaut le coup parce que ce genre de truc, ça passe assez inaperçu. C'est sur la famille Flick. Alors, la famille Flick, Herr Flick, donc un Allemand bon teint, est né dans la fin des années 1800, à la fin du 19e siècle, a commencé par chiner, par être chiffonnier et tout, et est devenu l'un des plus grands industriels fournisseurs d'armement de la guerre pendant la fin de la Première Guerre mondiale, puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déjà d'ailleurs été condamné à la libération, hein, ben c'est normal quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que c'était l'emmerdeur qui était placé entre les deux gros de la sidérurgie allemande, à savoir Krupp d'un côté et Thyssen de l'autre quoi. Donc
ça, tu m'étonnes qu'il soit fait condamner lui.
Ouais non mais les autres aussi.
Ouais, c'était soft encore.
Ouais non mais bon et le documentaire est vraiment très très intéressant parce qu'en même temps on traverse également une grosse partie de l'histoire de la révolution industrielle qui s'est poursuivie quoi, pas seulement
au 18e,
pas seulement
19e pardon, fin 19e,
de la deuxième moitié du 19e mais également dans toute on va dire les 30 premières années du 20e, donc et lui il était en plein dedans quoi.
Il faut rappeler que la révolution industrielle, c'est pas que l'acier, c'est aussi la chimie, et l'Allemagne était le pays en pointe à l'époque.
Yavol. Sur RTL9, Pathfinder, le sang du guerrier avec Karl Urban, Marcus
et Clancy Brown.
Que des gros bourrins. Sinon, Ciné Plus Club sur mardi prochain, on propose Kiss of Death de Baba Choder. Alors, l'affrontement entre Nick Cage et David Caruso, le casting est excellent, hein, Samuel L. Jackson, Stanley Tucci et tout ça, quoi. Bon, enfin, ça vaut pas l'original quand même, hein, justement, quoi, tu vois, j'ai fait un petit truc et tout. Qui est le carrefour de la mort de Henri Hathaway. Hein, bon, bah, rien à voir. Et pourtant, c'est marrant parce que dans le carrefour de la mort de Henri Hathaway, t'as pas d'acteur qui est vraiment l'acteur connu de l'époque, genre de la A-list. Hein. Ce sont des, bon, on va dire presque des seconds rôles, en fait. Mais c'est pour ça, en fait, que le film fonctionne, à mon avis. Sur Polar également, mardi à 21h, le gorille a mordu l'archevêque. Rappelez-vous, Fleuve Noir et tout. Et c'est Roger Alain qui interprète le rôle du gorille, bien sûr, avec Pierre Dac, qui fait une apparition.
Ouais,
dans
mais
le
alors
film.
C'est début années 60.
Ouais, 62 tout à fait. Un film de Maurice Labro. Sur FX, toujours mardi, les soucoupes volantes attaquent. Ça, c'est l'original. L'original de Fred Sears, 156, là où c'est le film où ils sont méchants, c'est des martiens et tout, ils vont nous bouffer et tout quoi. C'est assez rigolo à regarder quand même, avec Hugh Marlowe et John Taylor. Mercredi, tout d'abord, vous regardez la Coupe de la Ligue, et ensuite, vous regardez Arte 23h10 avec l'excellent Deep End de Jerzy Skolimowski. Avec Jane Asher et John Mulder Brown, film de 70, hein, mais qui est absolument magnifique. T'as jamais vu ce film ?
Non.
Eh bien, vas-y.
D'accord.
Vas-y. Ne serait-ce que pour le truc visuel, l'inventivité de ce mec, quoi, au niveau image, c'est chapeau, hein, surtout dans celui-là, quoi. Jeudi sur France 3 à 20h45, dans la Vallée d'Ella de Paul Haggis. Avec Tommy Jones, Jason Patrick et Charlize Theron, encore un film qui s'attache à nous raconter ce qui s'est passé en Irak et puis voilà, et le trauma d'après-guerre et tout le bordel et tout, quoi. Bon, les Ricains, eux, ils
alors
sont...
Excuse-moi, mais c'est laquelle de guerre, en fait ? C'est la première ou la deuxième guerre du Golfe ?
La deuxième.
D'accord.
Ouais, la deuxième. Hein. Le film est assez récent, 2000... j'ai déjà posé la feuille, quoi.
Bah, 2007,
quoi, oui. C'est la deuxième, donc... Donc les ricains, même les anglais, on va dire, ont leur devoir de mémoire et tout, ils en ont rien à foutre, eux c'est du business, vas-y ça marche et tout, les français ils ont toujours pas compris ça quoi, donc ok, quand c'est des événements passés et tout quoi, on les traite uniquement sur le ton de la comédie, hein.
Mais je crois que c'était sur,
quand il y en a un qui fait un film sérieux, il se fait vomir à la gueule et puis personne n'en parle, c'est L'ordre et la morale de Kassovitz.
Oui, ou alors il se fait interdire quoi, aussi. Oui.
Voilà, mais il y a eu un excellent documentaire sur Arte, je crois que c'était il y a 10 jours, où justement la différence de traitement entre les États-Unis et la France au cinéma sur les guerres relativement récentes, c'était sur Canal, pardon, je dis une immense connerie, où en fait ils expliquaient que tout simplement en France c'est le besoin de mémoire, le besoin de concilier, etc., donc il ne faut pas remuer, en même temps c'est une conciliation, tu vois, en essayant de nier indirectement sans le vouloir en fait les crimes passés, crimes de guerre que l'on retrouve dans n'importe quelle guerre, alors qu'aux États-Unis non, on n'hésite pas à y aller sur le côté politique. Pourquoi? Parce que tout simplement les financiers sont dans l'idée que ça va marcher au niveau commercial, donc on peut le financer, donc du coup il y a des gens qui ont le courage d'aborder ces sujets, voire même qui sont assez revendicatifs et qui n'hésitent absolument pas. C'est pour ça qu'on a eu un film sur Nixon, c'est pour ça qu'on a eu Les Hommes du Président deux ans après l'affaire du Watergate.
On continue donc avec la télé jeudi sur RTL9 à 20h40. Alors là, c'est la soirée carrément que vous pouvez vous faire sur RTL9. Avec tout d'abord une petite gâterie. Allez, vas-y.
Non, mais je signale aux autres qu'il avait déjà dit tout à l'heure, mais personne n'avait réagi.
Avant, on avait parlé de porno, alors je m'étais dit non, ça ferait déplacer encore de rajouter une couche.
Écoute, le film s'appelle Honey. Honey, le miel, c'est une gâterie, non? De Billy Woodruff avec Jessica Alba.
Oh ben,
hey, mais qui fait
une gâterie avec du miel, Jessica Alba. C'est à quelle heure?
Avant de passer aux choses sérieuses, toujours sur RTL9 à 22h30 jeudi prochain, Candyman avec Tony Todd. Facile.
Candy sucré.
On est Candyman.
Candyman veut dire bon.
Non mais des fois ils réfléchissent quand ils font des programmes. Tu vois, quand ils font de la programme. Des fois ils réfléchissent quand même quoi.
Fais gaffe parce qu'il y a des mecs d'AB qui nous écoutent.
Sur Gulli, mais ça c'est RTL9. Sur Gulli, 20h45, les Charlots font l'Espagne. Culte quand même. Quoi. Sur Direct Star, toujours jeudi prochain, 20h40, Cloverfield, que tu avais chroniqué, semble-t-il. Suivi de New York 1997.
Ah là, on peut pas lutter.
Deux destructions de New York coup sur coup, ça va être assez amusant. Deux courses poursuites en fait, ni plus ni moins.
Ciné plus Stars vous propose toujours jeudi d'évasion. Prochain Mission de Roland Joffé avec Robert De Niro en costume, c'est assez rare
en
pour le ciné
hein,
en conquistador en plus quoi.
Magnifique
et
avec
en
une musique
super enfoiré de en plus quoi.
Oui,
en plus c'est vraiment l'enfoiré dans le film quoi.
C'est l'enfoiré,
enfin,
mais
bon, Jeremy Irons aussi quoi, mais
Jeremy Irons c'est le prêtre qui va être plus pacifique et De Niro, mais il a quand même une rédemption à la fin.
Oui, mais bon c'est volte-face on va
c'est De Niro en même temps.
Et j'ai même pas la bande son alors qu'elle est, mais elle est littéralement à tomber. Ça, je le regarde.
Ouais, en plus, sur Ciné Plus Club, toujours jeudi prochain, La Comtesse Perverse de Jess Franco avec Alice Arnaud, Lina Romay, Howard Vernon. Sur TCM à 20h40, Colors de Dennis Hopper avec Sean Penn, Robert Duvall et Don Cheadle. Sur Polar, jeudi prochain, toujours 21h, celui-là est excellent carrément, c'est Lucky Luciano de Francesco Rosi avec John Maria Volonté, Rod Steiger et Edmond O'Brien. On termine avec Vendredi, RTL9 qui vous propose à 20h45 Disjoncté de Ben Stiller avec Jim Carrey et Ben Stiller bien sûr quoi, hein, Matthew Broderick et tout quoi. Le film il est bien quoi, c'est Cable Guy la version originale, mais bon
il est bien chelou
non mais justement quoi, parce que bon Jim Carrey il sort un petit peu des rôles auxquels on l'avait habitué, les Ventura et tout ça quoi, et là il joue le rôle d'un mec qui est inquiétant, méchant, tu sais pas trop et tout quoi, alors que bon dans les autres tu te dis ouais putain c'est le mec que j'aimerais bien épouser
tout en gardant son côté plastique dans les imitations d'énormément de choses de la télé américaine. Attention, faut franchement être branché sur la télé des années 90.
Jim Carrey quand même dans Le Nombre 23, enfin tu sors complètement du personnage de mec qui t'a fait rire dans Food Irene, enfin c'est pas le mec, vachement polyvalent et c'est un mec qui est énorme.
Le Nombre 23 c'est venu après, mais
oui mais c'est venu après justement.
Cable Guy, c'était le
Cable Guy, c'est un des premiers où il essaye de casser un petit peu son, enfin pas casser, mais enfin où il change un petit peu quoi sa façon de faire rire les gens, parce qu'il fait pas que rire dans ce film, c'est ça qui est intéressant quoi. Il fait aussi un petit peu peur par moment. Vendredi toujours sur Ciné Plus Frisson à 20h40, Peste Noire de Christopher Smith, un film de Moyen-Âge avec Eddie Redmayne, Sean Bean, Carice Van Houten et tout.
Ah oui.
Attention là quoi, c'est du lourd avec Eddie Redmayne et puis une histoire donc qui se déroule au Moyen-Âge en pleine Peste Noire. Sur TCM à 20h40, un grand classique d'Arthur Penn, La Poursuite Impitoyable avec Brando Redford, Jane Fonda. Arthur Penn, je le dis à chaque fois, mais enfin c'est pas lui le papa de Sean, c'est Léo, le père de Sean, et ils n'ont pas de relation de parenté. Voilà. Et on termine avec sur Action, vendredi prochain à 21h, Le Traître du Texas, encore un Bud Bodicher, mais sans Randall Scott. Mais on y gagne au change, non, pas forcément, c'est Robert Ryan. Il y a également Rockson et l'homme de fer, Raymond Burr. Mais là, à l'époque, il n'était pas en chaise roulante.
Juste une question pour rappeler sur l'agenda, puisqu'on est sur le final. Qui c'est qui vient ce soir à 18h, place Esquirol, pour féliciter le président Salengro de sa réélection ?
Moi,
pour la clôture du Fifi Gros ?
Moi, j'ai pas pu faire la semaine de Groland parce que je suis triste et j'ai envie d'aller ce soir voir le président.
Avec
notre
président, avec à 19h. Donc ça se conclura en fait par le concert des producteurs de porc. Et c'est place Saint-Cernin à 19h. C'est son groupe d'ailleurs.
Il n'y a pas encore des trucs demain ?
Si, il y a la remise.
Il y a la remise des prix, ouais.
Il y a la remise des prix avec Bernard Blier. À l'Utopia Tournefeuille, c'est pas la peine d'insister. Il y a plus de place. Il y a aussi les projections. Si je me trompe, les AV de la nuit des courts-métrages qui sont prévues sur Canal en diffusion en novembre. Mon Dieu, mais on ne serait pas arrivé à la fin de cette émission. Thomas, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent par stream, qui nous écoutent, qui écoutent le podcast en différentes diagonales, voire qui nous écoutent par Twitter et Facebook. Et
oui, d'ailleurs, par Twitter, nous avons quelques retours. Il y a Sushinette qui dit que vivement qu'elle revienne, on est très macho et du sport en profite pour griller le temps du sport. D'autres qui nous disent que Kelsey Grammer joue bien le fauve dans X-Men 3. Des gens qui sont pas d'accord parce que Kate Beckinsale joue comme un pied dans Total Recall, donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour les retours. Sinon, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, donc nous avions une onde de choc sur le plateau, on a eu de la drague, du post-apo pastelisé, des truands hollywoodiens, des procès en VO, des chroniques martiennes, du nouveau et du pas mal, du Buffy en double programme JCVD, un toxico et des culottes mouillées, une gâterie, un fou Anthony Wong, une autre gâterie avec du miel, une comtesse perverse et un homme sucré.
Waouh, nom d'une amphore, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, consulter nos chroniques écrites, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web suppléantweekend.fr. Vous écoutez Radio FMR sur 89,1 MHz en modulation de fréquence et en stéréophonie. Nous sommes en alternance sur cette fréquence en direct et en alternance avec Booster FM, excusez-moi. Et en diffusion continue sur www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, je ne sais pas, on pourrait peut-être passer l'interview qu'on a enregistrée cette semaine.
De Michel Oslo,
ouais.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas, le film sort quand, je sais plus.
Eh bien, je crois que le film sort peut-être mercredi, donc il faudra qu'on se mette d'accord. On a quelques interviews sous les bras, on va peut-être commencer à vous les refourguer.
Ah ouais, tiens, Tsuchi Kaneko, pourquoi
par
pas.
Par exemple,
ouais,
oui.
Ouais. Bref, tout ça pour vous dire, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci de votre écoute, vous écoutez le Super Week-end, Radio FMR de suite. C'est de la place, ça c'est du sport. Ciao, bye bye.